Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget, et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant, et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN. Et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Puis sur Play, donc on est...
Nous sommes live. On est en live, ça y est.
On est en live, ça y est.
Bonjour tout le monde.
Ça enregistre.
On est là.
Non, on n'a pas de caméra, on n'est pas en live, on n'est pas sur Insta, mais moi j'aime bien la synchrone. Je préfère vraiment, de plus en plus, j'ai beaucoup d'admiration pour les créateurs de contenu qui font du synchrone, des lives, où t'interagis, des Twitch, où t'interagis vraiment avec ta communauté à fond. Moi je suis vraiment un bébé de la synchrone, tu vois. J'écris, j'enregistre des podcasts, je fais des vidéos de temps en temps, mais je suis pas du tout dans le live. Toi tu t'y mets?
Le live. Alors j'ai quasiment jamais fait de live, j'en fais très peu. J'avoue que En fait, je me laisse très tenter parce que je me dis, ça a l'air sympa sur Twitch, en vrai, ça permet aussi de... En fait, c'est un mélange entre les deux choses que je fais le plus actuellement, qui sont la vidéo YouTube et le podcast, j'ai envie de dire, dans le sens où je peux parler sans scripter, mais en fait, c'est un podcast en live, mais en plus, il est filmé, tu vois. C'est un peu comme ça que je pourrais le voir, le live Twitch, on dira, ou ce format-là, parce que c'est celui-là que je trouverais assez intéressant. Éventuellement, je me lancerai là-dedans, mais j'avoue que, tu vois, j'aime pas trop me lancer dans un truc et devoir l'abandonner ou devoir le laisser tomber parce qu'en fait, il y a pas le temps ou en fait, c'est pas si cool. Ouais. Donc, le jour où je me lancerai là-dedans, ça sera pour de bon, j'espère, avec un plan à peu près bien huilé. Mais
bah écoute, ouais, en tout cas moi les podcasts et la chaîne YouTube, moi ça me va, et mais je suis très content d'être là aujourd'hui, tu vois, et de pouvoir te rencontrer. Je pense que j'ai découvert ton contenu il y a facile 3 ans. Ouais. Je cherchais à apprendre à faire le handstand et le drapeau. Ouais. Et du coup je suis tombé sur tes super vidéos. En plus je crois que c'était à peu près le début pour toi, non, ou je me souviens pas trop.
Ouais, alors clairement notamment ce qui est tuto handstand ou quoi, ouais, ça fait facilement 3 ans et quelques, et là ouais. Bah là en novembre 2021, ça fera 4 ans que j'ai fait ma première vidéo YouTube, donc
félicitations.
Donc bientôt 4 ans, oui, merci.
Joyeux anniversaire.
Merci. Je viens de faire la 100e aussi il y a pas longtemps, donc il y a des petits paliers comme ça qui font plaisir et c'est cool de voir que ça fait son petit chemin, quoi.
Ok, ouais, donc c'est vraiment ça. T'as fait 25 vidéos par an pendant 4 ans, quoi.
Une toutes les 2 semaines. J'étais parti là-dessus au début, et avec des petites pauses, avec des périodes où il y avait un peu plus. Disons que sur 4 ans, ça s'est équilibré à peu près à ce que je visais au début, ouais.
Ok. Bah écoute, ouais, franchement, je suis hyper ravi d'être là parce que pour venir un petit peu du monde du CrossFit et pour avoir pas mal de copains qui font du street workout, tu vois, qui très vite m'ont mis sur des muscle up, sur des handstands ou ce genre de figure. Puis moi j'ai toujours été un peu réticent, je voyais pas trop l'intérêt au début. Mais je m'y suis mis doucement. Alors j'en fais un peu moins en ce moment, mais je tiens toujours mon handstand. Je pense que je sortirai un drapeau assez facilement. Et tu vois, quand je suis arrivé dans cette mare de youtubeur, dans cette mare de créateur de contenu, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de testostérone, un peu de malhonnêteté, et aussi, je sais pas, peut-être pas forcément un côté malveillant, tu vois, mais un côté trop fit game, ultra musclé, on parle comme des bourrins, on est hyper testostéroné, vachement centré sur l'esthétique aussi. Et je trouvais que toi tu te détonnais vraiment avec cet univers-là, tu vois. Donc et moi c'est ça qui m'a attrapé, on va dire, dans ton contenu. Donc je sais pas, toi aujourd'hui comment tu définirais un peu ton style dans tout ce fit game.
Mon style dans ce fit game. Bah tu vois, déjà le fit game par définition, c'est un concept un peu flou, tu vois. Est-ce que t'es dedans, est-ce que t'es pas dedans? Quand est-ce que tu es accepté malgré toi, parce que c'est pas vraiment toi qui décides manifestement. Moi, tu vois, pendant le confinement, il y a eu quand même un gros boom sur ma chaîne, et c'est un petit peu à ce moment-là que apparemment, j'ai eu le droit d'intégrer le fit game, tu vois. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est vrai que je vais pas mentir, aujourd'hui, je sais que j'y suis associé et que c'est voilà, j'en fais partie, on dira. Quelle est ma place là-dedans? Je sais pas, j'aime penser effectivement que je voulais apporter quelque chose, pas de différent, mais en fait je voulais juste essayer d'être moi-même, en fait, et pas, parce que moi-même, je sais que je ne suis pas justement ce que tu as décrit avant, c'est-à-dire le mec qui est plein de testo qui va faire jouer des gros bras ou être peut-être intimidant sans faire exprès ou quoi. Moi, je reviens d'une adolescence où j'étais très timide, très introverti, très chez moi devant mon ordinateur, très peu de confiance en moi. Et malgré le fait que derrière j'ai pu inverser la tendance, on dira, j'ai fait du sport et je me suis plus apprécié, j'ai gardé aussi cette part de je n'aime pas être le centre d'attention, j'ai pas envie que les gens me remarquent plus que ça, j'ai pas envie d'en faire plus que nécessaire, j'ai juste envie de venir, de poser mes trucs comme je les vois, et puis de laisser les gens regarder ce qu'ils peuvent y trouver pour eux-mêmes. Okay. Et selon moi, il n'y a pas besoin d'user d'artifices extraordinaires. Et au contraire, même, j'aurais même tendance à vouloir dire, ben, en fait, rester soi-même, essayer d'être un peu honnête, transparent, tous ces jolis adjectifs, tout ça, mais juste normal, ça connecte tout aussi bien, voire mieux avec les gens, ou en tout cas avec certaines personnes qui justement cherchent un petit peu plus de légèreté, de simplicité et de, ouais, et de naturel dans certains contenus qu'ils regardent. Et c'est vrai que le contenu de musculation, ça peut facilement tomber dans, ouais, le cliché dans ce que tu as, dans ce que tu as donné. Et je suis content de savoir que apparemment ça il y avait un petit change, un petit renouveau quand tu as regardé ce que je faisais. Et c'est, du coup, ça c'était il y a 3 ans, ce que t'as dit.
C'est, ouais, ouais, exactement. C'était il y a 3 ans, ouais, mm-hmm, que je pense que j'ai découvert ton contenu.
Ouais. Ouais.
Mais non, mais effectivement, et tu vois, à l'époque, je trouve, tu vois, il y avait peut-être un tout petit peu moins de variété aussi sur YouTube, tu vois, justement sur du fitness, ou peut-être un peu moins de street workout aussi. Et effectivement, tu vois, la personnalité un peu calme, un peu pédagogue, qui prend le temps d'expliquer, c'est moins la personnalité du YouTuber lambda, on va dire, entre guillemets. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a plu un peu, c'est le côté un peu mec normal, quoi, tu vois, qui a pas la tête gros comme un melon, et qui va t'apprendre comment est la vie, et faire le gourou, et te dire que, enfin,
il faut faire ça comme ça, ouais, et pas autrement.
Exactement. Mais bon, après, on pourra en reparler, mais il y a des méthodes qui marchent et des méthodes qui marchent pas. Mais
bien sûr.
Mais voilà. Bon, écoute, je vais me faire engueuler par mes auditeurs si je te pose pas la question traditionnelle pour démarrer ce podcast là. Et de toute façon, on pourra rebondir un peu à ton positionnement, aussi à ta raison d'être. Moi, je suis très curieux de savoir ta raison d'être en tant que YouTuber, parce que je sais que t'en as parlé dans un de tes podcasts et dans une de tes vidéos, où t'as fait un gros travail sur toi. Donc, on réabordera un peu ce sujet là. Mais la question, la vraie tradition sur le podcast extraterrien, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. C'est pas forcément justement ton vrai premier souvenir, mais ça peut être un souvenir qui t'a marqué, un souvenir que t'aimes raconter, ou un souvenir peut-être que tes parents aiment raconter pour se moquer un peu de toi. C'est quoi le souvenir un peu qui te vient en tête?
Alors, c'est vrai que chronologiquement, je serais pas sûr de l'exactitude de cela, mais il y en a un clairement qui me vient en tête et qui naît en fait du fait que depuis tout petit, je fais du sport, par mes parents, pour lesquels c'était important que chacun de leurs enfants fasse du sport et qui étaient prêts à faire les sacrifices de devoir aller les amener au sport, les ramener. Et avec 3 enfants, ça prend quand même un petit peu du temps. Donc, ouais, il fallait qu'on fasse du sport dans ma famille. On pouvait faire ce qu'on voulait. C'était juste, écoute, t'aimes pas le foot, t'aimes pas le judo, t'aimes pas la natation, il y a pas de souci. Par contre, il va falloir choisir un autre sport si tu veux arrêter, tu vois. Donc, pas de problème. Tu veux faire quoi que ce soit, tout est ouvert. Et j'aurais envie de dire, le premier souvenir de sport dont je me souviens, c'est un des sports que j'ai testé avant de changer, parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas ça et que j'étais très mauvais, c'est le foot. Okay. Moi, je suis assez nul avec mes pieds, manifestement. Et je me suis jamais réentraîné depuis pour devenir moins mauvais. Mais j'ai fait du foot, je sais pas pendant combien de temps, et peut-être 1 ou 2 mois. Et j'ai quelques souvenirs d'avoir été sur le terrain ou à l'entraînement, je sais plus vraiment, tout petit, je me souviens même pas quel âge j'avais, et que j'avais trouvé ça nul et presque humiliant parce que je me sentais extrêmement mauvais. Et je me souviens très vite avoir dit à ma mère, j'ai pas envie de faire du foot. Et ensuite, je suis parti dans le judo, sauf erreur. J'ai fait du judo, 1 an et demi de judo. Ensuite, j'en ai eu marre. J'ai fait de la natation pendant plusieurs années. Ensuite, j'en ai eu marre. Ensuite, j'ai fait du uni-hockey, donc du hockey en salle où on courait. Et ça, j'ai fait 3 ou 4 ans jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite, j'ai commencé la musculation. Et puis, c'était le début d'une belle histoire d'amour, apparemment. Donc, voilà, un petit peu.
Je crois que tu as eu un petit niveau, non, au hockey aussi. Quand tu dis uni-hockey, c'est du hockey sur gazon, c'est ça?
C'est du hockey sur gazon, on dira, mais en fait, c'est du hockey en salle. C'est vraiment du hockey en salle de gymnastique, avec ces balles rondes, blanches, avec plein de petits trous dedans qui sont assez gros. On a des grosses cannes en plastique. Et en gros, c'est comme sur glace, sauf que tu cours après une balle qui court et tu tires dans le but adverse. C'est à peu près la même taille de but. Il y a aussi des gardiens devant. Et ça, j'en ai fait 3 ou 4 ans, ouais.
Okay.
Ouais. Et ça m'avait quand même donné mes premiers bons sentiments dans le sport, parce que j'étais adolescent à l'époque, pas vraiment de confiance en moi, etc. Et je m'en sortais assez bien là-dedans. Je me souviens, c'était ma petite fierté personnelle, c'est quand j'ai été capitaine de mon équipe de uni-hockey. Et surtout que le capitaine, en fait, de l'équipe avait le droit de garder les coupes si on les gagnait.
Okay, donc,
soit
ouais,
elles allaient dans la vitrine du club, et la plupart du temps, les premières places allaient là-bas, soit le capitaine pouvait garder les coupes. Et du coup, j'ai encore 2 coupes chez moi. J'ai pas beaucoup de coupes, tu vois, mais elles valent pas grand-chose non plus. Mais j'ai quand même gagné des petites coupes et tout. Tu sais, ça fait un peu américain de sport et tout, qui a tout son palmarès derrière. Donc, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que c'était ma petite fierté. Ouais, j'en ai fait 3 ou 4 ans, ouais.
Ok, trop cool.
C'est ça.
Et pourquoi t'as arrêté? D'ailleurs, si justement t'étais capitaine de ton équipe, j'ai l'impression que vous, si t'avais des coupes, c'est que vous aviez gagné un championnat, vous aviez une super équipe. Mmh. Pourquoi t'as mis une croix dessus?
Parce que du jour au lendemain, tout ça a changé. Pourquoi? Parce que j'ai grandi, j'ai passé de catégorie d'âge et je suis passé dans la catégorie au-dessus. Donc, okay. Je me suis retrouvé avec pas mal de gens, que des gens un peu plus âgés que moi. Ils avaient tous 18 ou 19 ans. Et ouais. La dynamique d'équipe était extrêmement différente. C'est-à-dire qu'avant, on était là, on jouait, on s'entraînait, on avait envie de gagner, on avait envie d'aller au championnat national et de faire champion suisse. Et quand je suis arrivé dans la catégorie du dessus, apparemment, l'esprit du groupe, c'était plutôt, on vient à l'entraînement, mais pas pour s'entraîner, plutôt pour aller boire des bières juste après, tu vois. Et ça, okay. Ça m'a pas du tout plu parce que je voyais plus d'intérêt, j'ai plus aucun intérêt d'aller m'entraîner là et je ne pouvais pas rester dans l'équipe des plus jeunes dans laquelle j'étais. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'arrête, c'est, ça n'a plus l'intérêt que j'y trouvais, quoi.
Il y avait aucun moyen de changer de club ou de trouver une solution, une alternative. Ouais, c'est un peu compliqué quand t'es quand t'es jeune, tu vois.
Peut-être. Mais ouais, non, c'est vrai que j'aurais pu, j'avoue. Faut croire que j'ai pas, je devais pas être suffisamment passionné par le truc non plus, faut croire. Je sais pas, tu sais, c'est une bonne question. J'ai pas de souvenir de ça. Je me souviens juste que l'équipe me plaisait plus et peut-être que je me suis dit bon, c'est le bon moment pour changer parce que peut-être que j'avais envie de renouveau un petit peu aussi dans le sport. Vu que j'avais quand même pris un peu l'habitude d'en essayer plusieurs, je me suis dit bon, je vais peut-être changer. Et là, mon frère avait commencé le fitness, la muscu. Moi, j'avais quoi, 17 ans à ce moment-là. J'étais au lycée, en fin de lycée. Et je commençais à me dire, bon, la muscu, ça a l'air sympa parce que tu peux changer physiquement et tout, plaire aux filles, tout ça. Et sur un malentendu, il peut se passer des trucs avec, derrière. Donc, je me suis dit, bon, on va tester ça. Et puis, c'est comme ça, commencer comme ça.
Ouais. Mais c'est fou. Bon, on va continuer sur le, justement, sur la découverte de la muscu parce que c'est un peu, voilà, le début d'un long acheminement vers qui tu es aujourd'hui. Mais je rebondis juste, tu vois, sur ce que t'as dit sur le, enfin, sur cette, tu vois, cette situation là justement sur le uni hockey, c'est ouf à quel point, tu vois, un écosystème, tu vois, peut influencer tes choix, tu vois. Tu serais tombé avec une équipe hyper motivée, les mecs avec une envie de gagner, une envie de devenir, je sais pas, professionnel ou de faire carrière dans le truc. Peut-être que toi t'aurais continué à être capitaine et peut-être t'aurais fait une méga carrière. Et des fois, moi, quand on me demande qu'est-ce qui fait un grand champion, mais je dis en fait, et c'est, des fois ça choque les gens, mais je leur dis, mais le premier paramètre, c'est la chance. C'est où tu nais, où tu tombes, quel sport t'essayes. Tu vois, si t'avais jamais découvert le uni hockey, ou peut-être si ton frère n'avait jamais fait de muscu, peut-être que tu vois, t'aurais eu des voies complètement différentes. Je sais pas ce que t'en penses, si Roger Federer n'avait jamais pris une raquette de tennis dans ses mains, tu vois, est-ce qu'il serait devenu un champion de football? Je sais pas, tu vois. Donc, il y a toujours une part de hasard et de chance dans tout ça, quoi.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et des fois, j'y pense aussi aujourd'hui, quand je regarde un peu ce que mon parcours ces dernières années, on dira, je me dis, mais c'est quand même une succession de concours de circonstances de ouf. Tout ce qui nous arrive globalement, parce que tout le monde peut se poser la question, ah, qu'est-ce qui se serait passé si là j'avais été pris dans cette école, si j'avais été accepté dans ce stage, si, et encore plus si t'as envie de pousser le truc encore plus loin, c'est si j'étais né au Kazakhstan dans une famille défavorisée, bah forcément ça aurait été différent aussi, on est bien d'accord. Et c'est là que tu te dis vraiment, c'est toutes les petits trucs qui se sont, si aujourd'hui t'es super content entre guillemets de là où t'en es ou quoi, tu peux très bien te dire, ok, c'est parce que des milliers de petites étoiles se sont alignées tout au long pour que j'en arrive là. Et putain, sacré coup de bol, quoi, quand même.
Ouais, c'est quoi, c'est le discours de Steve Jobs là sur les connecting the dots, mais un peu après coup, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais
je l'ai entendu il y a longtemps. Ouais.
Ouais. Ok. Et donc et ouais, tu tombes toi dans la muscu par ton frère et pour les filles un peu.
Clairement.
Ok. T'avais quel type de physique avant de commencer la muscu?
J'ai toujours été
sportif ou plutôt
non. Alors c'est marrant parce qu'en plus là, c'est vrai qu'on pourrait croire en m'écoutant parler là que vu que je faisais du sport depuis longtemps, je devais avoir un physique d'athlète.
C'est les hockeyeurs normalement.
Ouais, alors pas du tout. Maintenant que j'y pense, c'est vrai, c'est pas logique du tout entre guillemets. Non, j'ai toujours eu le physique crevette. C'est-à-dire bon, je fais 1m84, donc je suis quand même assez grand, mais surtout je suis fin, quoi. J'ai jamais été en surpoids de ma vie, j'ai toujours été plutôt maigre, pas spécialement sec, pas spécialement mastoc, mais maigre de base. Donc je suis arrivé comme ça à la muscu, quoi. Littéralement, j'avais rien, enfin j'ai pas grand, mais j'étais normal, tu vois, vraiment un physique normal de quelqu'un, c'est con à dire, mais de quelqu'un qui a jamais vraiment fait de sport mais qui a pas une génétique explosé non plus. Ouais. Voilà, j'étais juste lambda, ouais, lambda un petit peu, ouais, lambda à ce niveau-là.
Non, en plus quand t'es ado, enfin, on va dire en fin d'adolescence, tu termines ta croissance, tes muscles, à moins de très bien t'entraîner ou de t'entraîner vraiment beaucoup, c'est ta croissance qui enfin la croissance osseuse qui l'emporte un peu sur la croissance musculaire, quoi, généralement. Donc, donc ok. Et ça a payé avec les filles, avec le physique ou pas?
Si quelqu'un s'en doute encore, je peux lui donner mon ressenti là-dessus, c'est que les filles s'en foutent, hein. Concrètement, les filles s'en foutent pas mal de c'est ton physique. Moi, je trouve. Évidemment, j'exagère un peu quand je dis ça. Disons qu'elle n'aime pas les deux extrêmes. Ça, je pense que tout le monde le sait. Si t'es trop obèse ou que tu es beaucoup trop musclé et sec, la plupart du temps, c'est pas ce qui plaira le plus. Mais si t'es dans une fourchette assez large entre deux, à mon avis, les filles s'en foutent un peu dans l'idée et sont plus intéressées par d'autres choses que tu peux trouver là-dedans, que moi j'ai trouvé là-dedans, qui est typiquement une confiance en soi, une attitude, tu vois, ton attitude, comment tu te tiens et à quel point... ce que tu dégages, etc. Et tout ça, ça peut être influencé par la perception que tu as de toi-même. Et si tu te sens bien dans ton corps, tu peux plus facilement te sentir bien dans ta tête et connecter avec les gens, et les gens se rendent compte. Et puis bien sûr, si t'as un physique objectivement, même ça veut pas dire grand chose, séduisant, bah ça va aider. Ouais. Mais j'aime penser que voilà, tu peux très bien être le mec le plus beau gosse du monde et être un abruti fini, et puis ça va pas du tout marcher avec les filles, tu vois. Et en plus, commencer la muscu pour les filles et tout ça, je pense que c'est assez classique, mais continuer longtemps pour quelqu'un d'autre, je pense que c'est assez rare, et qu'on se rend assez rapidement compte que si on fait ça, c'est surtout pour soi. Et c'est aussi pour ça que quand certaines filles peuvent te dire ou quoi, moi ça m'est arrivé, même ma mère m'avait fait quelques remarques un temps, en mode je deviens un peu trop musclé et tout, tu vois. Et forcément c'est jamais très agréable de se faire entendre dire ça, mais d'un autre côté tu relativises en disant bah ouais, bah je le fais pas pour toi, donc bah je prends note de ton commentaire, mais ok, si je le faisais pour toi, oui, je viserais moins, mais du coup je le fais pas pour toi, donc moi je fais ce qui me plaît entre guillemets là-dedans. Mais ouais, les filles, oui, ça aide un peu, bien sûr, mais c'est plus.
Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est tout ce qui est à côté qui est vraiment valorisant, du coup, plutôt avec la gente féminine, quoi. T'as mentionné la confiance en soi, mais je pense que c'est aussi une part de rigueur, le fait aussi que tu te passionnes pour un sujet et on va dire une personne quand t'es dans une phase de séduction. Le fait qu'il y ait une passion, c'est toujours attirant de voir quelqu'un de passionné.
Je trouve ça extrêmement attirant chez une fille, moi, en tout cas.
Bah voilà, donc
forcément.
On est d'accord là-dessus. Ouais. Et après, ouais, ça peut peut-être aussi apporter une forme de sécurité, tu vois, peut-être qu'une femme peut rechercher,
oui,
mais
c'est vrai.
Mais ok. Trop cool. Et si je me souviens bien, toi, enfin, quand j'ai entendu ton histoire, il me semble que au début, la muscu, ça avait pas tant marché que ça finalement.
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, je faisais n'importe quoi, hein, vraiment.
Avec la gueule d'enterrement,
non, rien. Non, rien. Tu vois, je veux pas avoir des regrets aujourd'hui parce que c'est ce qui m'a permis d'apprendre tout ça. Mais quand même, pendant 3 ou 4 ans, j'ai eu très très peu de résultats.
C'est dû à quoi?
C'est dû au fait que je m'entraînais mal, en fait. Clairement, que j'avais eu la mauvaise information, qu'on m'avait pas, que je savais pas ce que je faisais, parce que l'exemple tout facile pour comprendre ça, c'est qu'en fait, si tous les jours tu fais que 10 pompes, bah tu fais du sport, tu t'entraînes, tu peux dire je fais de la muscu tous les jours parce que tu fais des pompes. Et ça, c'est un exemple simplifié, ça veut dire que tu peux rajouter 15 exercices, mais tu fais toujours la même chose. Si tu fais toujours la même chose, ton corps va s'adapter jusqu'à ce point-là, mais il a aucune raison de s'adapter au-delà. Et ça, on me l'avait pas expliqué, on m'avait pas dit il faut continuellement chercher à mettre plus de poids, à faire plus d'efforts, à améliorer l'un des paramètres qui permet de faire une surcharge progressive dans ton entraînement, donc plus de poids ou alors plus de séries, plus de répétitions, moins de temps de repos. Un de ces paramètres doit changer, doit se compliquer, et si c'est pas le cas, bah ça change rien. C'est un peu comme tu vas au soleil tous les jours 15 minutes, bah tu vas pas bronzer pour toujours, tu vas bronzer juste assez pour que ton corps soit parfaitement capable de se défendre face à cette agression qui est le soleil, face à cette agression qui est la déchirure de tes fibres musculaires, et pas au-delà. Et finalement, j'ai fini par comprendre. Et ensuite, en 6 à 12 mois, j'ai eu 4 fois les résultats que j'avais eu en 3 ans, tu vois.
C'est dingue. Ouais. C'est dingue. En tout cas, super la métaphore du soleil. Je la réutiliserai parce qu'elle est bien trouvée. Ouais. Et c'était quoi le déclic? Enfin, je sais pas, t'es tombé sur un contenu, une rencontre. Tu vois, parce que après, moi, si franchement, je me mets à ta place, si pendant 3-4 ans, je m'étais entraîné et que j'avais pas eu de résultats physiques, je pense que j'aurais abandonné, quoi. Mais
le truc, c'est que j'en avais eu, tu vois, mais ouais. J'en avais eu, mais c'était minime. Surtout que là, en plus, aujourd'hui, tu regardes... Bon, alors, non, je vais pas utiliser cet exemple parce que c'est biaisé avec les réseaux sociaux et tout ça, on dira. Mais c'est vrai que, tu vois, en 3-4 ans, j'ai eu des résultats, mais c'est juste que c'est les résultats qu'un débutant qui s'entraîne correctement, il aurait pu avoir en 3 mois, quoi, en 6 mois, peut-être. Et, ouais. Et du coup, je pouvais pas me nier le fait que ça changeait un tout petit peu mon corps et tout ça. Et ouais, je sais pas, je sais pas vraiment pourquoi j'ai pas abandonné en réalité non plus. Peut-être parce que je me suis très vite intégré. Je pense que je me suis rapidement plu dans le processus, même s'il y avait pas un résultat de fou, parce que j'allais religieusement à la salle de muscu 3 ou 4 fois par semaine pendant ces 3 ans. C'était pas en plus j'y vais lance-pierre comme ça de temps en temps quand je le sens. J'y vais. Non, j'y allais vraiment. J'y croyais. Hein. J'étais peut-être superbement naïf et et ça m'a sauvé de l'abandon. Mais ouais, et le déclic entre guillemets, c'est que j'ai fait pas mal de recherches et vers la fin de ces 3 ou 4 ans, j'ai fait l'erreur. Une erreur de débutant, selon moi, qui est assez caractéristique, mais qu'on peut en vouloir à personne pour ça. Moi, le premier, parce que je l'ai faite aussi. Et certaines personnes aujourd'hui qui me posent des questions. Ouais, Eric, j'aimerais bien voir mes abdos, etc. Comment est-ce qu'il faut que je le fasse? Ouais. Et la plupart du temps, ces personnes n'ont quasiment pas de masse musculaire. Elles viennent et c'était comme moi et j'étais là en mode, OK, moi, en fait, je veux voir mes abdos. C'est le but, c'est le Graal. Mmh. Le problème, c'est que quand t'as un peu de gras et que t'as pas beaucoup de muscles, tu veux voir tes abdos, il va falloir enlever le gras. Mais littéralement, tu vas te retrouver en mode squelette. Et il y a aucune chance que tu te plaises dans ce cas de figure. Et il faut prendre du muscle avant de vouloir brûler un petit peu les étapes ou de vouloir sécher pour voir les abdos qui sont vraiment la seule chose qui peuvent t'intéresser. Et j'ai fini par tomber sur un livre qui s'appelle Starting Strength de Mark Ripto, quelque chose comme ça, un coach super connu en Amérique. Mais en Amérique, ils ont beaucoup d'avance. Mais surtout, je pense que le contexte est important. Le contexte est que c'était il y a 13 ans, qu'il y avait beaucoup moins de ressources sur Internet. Il y a 13 ans, il y a 10 ans à peu près, qu'il y avait beaucoup moins de ressources sur scientifiques et fondées et même d'évidence anecdotique sur la bonne façon de s'entraîner qui était disponible sur Internet gratuitement. Il y avait beaucoup moins de ça. Il y avait beaucoup plus de bro-science en mode, tu manges 6 fois par jour parce que ton métabolisme, il va brûler, il va constamment tourner, ça va brûler plus. Et ça, c'est un mythe qui a été explosé depuis longtemps. Mais moi, j'y croyais, moi. Et non seulement je m'entraînais 3 fois par semaine, mais j'avais mes 6 repas par jour et je me faisais mon petit sandwich de beurre de cacahuète à 11h du mat à l'uni. Pour rien, tu vois. Et je passais en plus pour ce mec qui avait son Tupperware à midi et qui avait pas de résultat, tu vois.
Et, ça fait mal.
Après coup, je me rends compte, ça devait faire mal, en vrai, mais je m'en rendais peut-être pas si bien compte. J'étais un peu perdu dans mon truc, j'ai l'impression. Mais j'ai fini par comprendre qu'il fallait en fait devenir le plus fort possible, soulever de plus en plus lourd, si possible avec des répétitions pas trop élevées, pas faire des séries de 25, parce que là, c'est vraiment plus endurance musculaire. Et une fois que j'ai compris ça et qu'il faut le faire sur les plus gros exercices qui recrutent tous les groupes musculaires, le squat, le développé, couché, le soulevé de terre, tous ces gros trucs que je ne faisais pas, parce que moi je faisais les petits trucs à la poulie pour les biceps, tu vois, parce que ça non plus on me l'avait pas expliqué, et à partir de là tout a changé, quoi.
Ouais. Bon bah cool, mais tu vois comme quoi il faut, ça paraît hyper simple la musculation vu de l'extérieur, et tu vois là on est à Paris, on est un peu dans le, je sais pas à quel point c'est comme ça en Suisse, tu vois, mais c'est un peu à Paris, je vois des nouvelles salles de muscu mais qui fleurissent, et tu vois plein de gens qui débarquent dans des salles et tu le vois très bien, hein, qui n'ont jamais utilisé une machine ou qui n'ont jamais soulevé un poids de leur vie, et t'as tout de suite envie de leur dire informez-vous quand même, parce que soit vous allez peut-être vous blesser, vous allez peut-être vous écœurer parce que vous allez pas avoir de résultats. Et bien que ça ait l'air hyper simple, il faut quand même apprendre la théorie, il faut apprendre les bases de l'entraînement, sinon t'as pas de résultat, quoi, simplement.
C'est simple aussi parce que c'est très accessible et ça a l'air très accessible. Toutes les salles sont là, les abonnements sont pas très chers, on te prête une quantité de matériel qui a une valeur extraordinaire pour quasiment rien tous les mois, tu vois. Donc tout le monde entre guillemets peut y accéder, d'autant plus quand tu habites dans une grande ville et que t'as un tout petit peu de budget à mettre dedans. Et en plus et ça c'est aussi un problème autant qu'une bénédiction, un tsunami d'informations illimitées sur internet pour t'apprendre à faire tout ça, en plus des coachs qui sont à la salle, etc. Donc c'est très accessible, mais ça peut sembler presque trop simple et ça peut leurrer. Tu peux te leurrer en te disant c'est trop simple, j'y vais. Je fais les choses vite fait et puis c'est bon, ça devrait marcher. Mais c'est vrai que il y a quand même une certaine procédure plus ou moins efficace sur ce qu'on fait.
Ouais, bah c'est clair, hein, mais quand tu fais un peu de sport et que tu connais un petit peu les bonnes méthodes d'entraînement, tu as tout de suite la diff ou quelqu'un qui pourrait progresser beaucoup plus, quoi, ou qui pourrait avoir un meilleur potentiel. Mmh. Et du coup, bon, j'ai l'impression que là, tu passes quoi, 4, 5, 6 ans à la salle, tu progresses, enfin, explosion, en tout cas, de progression. Comment est-ce que tu viens au street workout? Comment est-ce que tu viens à tout ça?
Alors, j'ai commencé la muscu à 17 ans et je suis passé au street workout vers 25, quelque chose comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Okay. Et je suis passé, en fait, parce que du coup, ça faisait 7, 8 ans que je faisais de la muscu, dont 3 ou 4 ans efficacement en savant ce que je voulais faire, en sachant ce que je faisais, plutôt. Et j'avais eu le temps maintenant de faire un peu tout le parcours de go muscu classique, on dira, en tout cas c'est un petit peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire bah j'ai fait des prises de masse, j'ai fait des sèches, j'ai eu mes abdos, j'avais un physique que je trouvais cool, moi j'étais content de ce que j'avais fait et j'avais pas des ambitions énormes de devenir monstrueux non plus ou de faire des compétitions ou de pousser le truc trop loin. Donc bah gentiment j'en venais un petit peu au bout de ce que j'avais l'impression d'y trouver. Je me suis dit bon, j'avais plus trop d'objectifs en fait, et en fait le fait de simplement continuer encore 8 ans après à juste chercher à mettre plus de poids sur la même barre, je me disais bon, ça commence à me lasser en fait. Et ensuite je suis tombé sur différentes vidéos des trucs, je pense, sur internet, où j'avais même vu quelques personnes en vrai faire des muscle-up, faire le drapeau et tout ça. Et c'est cette figure, le drapeau, où tu te tiens, voilà, latéralement à un poteau ou quoi, qui m'a vendu du rêve. Et je me suis dit, mais en fait, il faut être fort et musclé pour faire ça, non? Ben, moi, je dois être capable de faire ça, du coup. Enfin, ça a l'air stylé, en tout cas. Peut-être c'est à ma portée. Et c'était pas à ma portée du tout, parce que c'est pas du tout la même chose que de faire de la muscu au début, c'est pas la même. Sauf que j'ai commencé à juste apprendre cette figure en parallèle de mon entraînement de muscu pendant 4 ou 6 mois. Okay. Et au bout de 6 mois, j'arrivais à assez bien faire le drapeau. C'est tout ce que j'arrivais à faire, parce que c'est le seul truc que j'avais commencé. Et mais j'avais pris goût. Là, j'avais vraiment pris goût au fait de contrôler mon... J'avais l'impression de contrôler en fait pas mal l'aspect de mon corps maintenant. Si je voulais être plus volumineux, plus sec ou quoi, j'avais l'impression de savoir comment faire. Et je me suis dit, putain, maintenant je peux essayer d'apprendre à contrôler mon corps dans l'espace. Et c'est ce que j'avais commencé à faire avec ça. Ensuite, j'ai rencontré un pote qui était assez calé là-dedans, qui m'a attiré dans un groupe avec d'autres personnes qui s'entraînaient dehors en street. Et c'est là que je me suis mis à fond dedans et que j'ai pas délaissé la muscu, parce que j'en fais toujours et j'en ai toujours fait et j'en fais encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Et c'est plus par complémentarité avec le street, en tout cas au début. Ouais. Et là, aujourd'hui, je suis un petit peu plus dans quelque chose d'un petit peu mixte, où je mélange un petit peu le tout, parce que, à nouveau, après 4 ans de street workout, ça fait un petit moment que je progresse plus trop, aussi parce que j'ai d'autres objectifs, et maintenant, je vais au sport parce que c'est juste une habitude qui fait partie intégrante de mon identité, mais à nouveau, là, je suis dans une phase un petit peu de maintien, un petit peu de... Ouais. J'ai pas de grandes ambitions sportives actuellement, en tout cas.
Ouais, mais c'est dur d'avoir... en tout cas, quand tu commences à... Enfin, quand t'es entrepreneur ou créateur de contenu et que t'as des projets et tout, c'est difficile, je trouve, en parallèle, de toujours se lancer un nouveau défi sportif à la hauteur de son défi. Et je trouve que c'est un peu... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, tu me diras peut-être pour toi, mais c'est un peu cyclique, tu vois. Un coup, t'as envie de te lancer un nouveau challenge sportif qui est un truc assez conséquent, donc... Ça te prend beaucoup d'énergie de cerveau et du coup tu vas peut-être être un peu plus en mode habitude et routine, tu vois, sur la partie création de contenu ou entrepreneurial, tu vois. Et à l'inverse, bah quand tu vas avoir des nouveaux projets entrepreneuriaux, tu vas être vraiment dans le bain, bah c'est plutôt le sport que tu vas mettre un peu de côté, quoi. En tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Je sais pas pour toi, mais
je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une bonne façon de le résumer rapidement. Effectivement, je me vois bien là-dedans. C'est vrai que bah quand je te parlais de nouveaux objectifs et tout qui n'avaient plus trop en rapport avec le sport ces dernières années, c'était entièrement des objectifs de création de contenu, de business, on dira, et de gagner ma vie en faisant des vidéos et tout ça. Et ça c'est devenu parce qu'au début j'ai commencé à faire des vidéos sur le street workout, qui était, mettons, ma passion. Le street workout, ouais. On pourra dire c'était le sommet à ce moment-là. Et progressivement, la création de contenu et le business autour est passé au-dessus du street workout, qui lui est plus devenu le support de ma passion, qui est de créer des choses. Ouais. Et le street workout est devenu, le sport, moi j'en ferai tout le temps et j'adore ça. Mais c'était aussi devenu un petit peu l'outil de mon travail, en plus de mon moyen de me défouler, de me changer les idées, de me sentir bien. Et c'est là que bah, la plupart de mes objectifs, en me disant bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année ou quoi, c'était pas de faire exploser mes performances dans le sport, c'était vraiment plus des objectifs professionnels, on dira. Et c'est comme ça que je suis un petit peu passé de l'un à l'autre, et que évidemment de temps en temps je me chauffe, je me dis bah j'ai vraiment envie d'apprendre à faire cette figure ou ce truc, je vais essayer de fixer des objectifs pour y arriver. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'essaye de m'aider typiquement en créant du contenu à propos du fait que je veux faire tel ou tel objectif sportif, parce ouais. que ça me met une pression supplémentaire.
Bien sûr.
Positive, je trouve. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est comme ça, et j'essaye de, et justement ça passe de l'un à l'autre. Mais je suis, mettons, trois quarts du temps, je suis plus en mode, allez, je veux faire monter un peu mon histoire et me plaire dans ce que je fais toute la journée quand je travaille. Et de temps en temps, je suis focus sport et tout ça. C'est quand même minoritaire.
Mais je voulais beaucoup te parler, ouais, de justement de YouTube et un peu plutôt de la partie un peu entrepreneuriale, tu vois, de ce que tu fais, parce que c'est ça que j'admire beaucoup, parce que il y a plusieurs choses. C'est que déjà, effectivement, je trouve que tu avais un positionnement qui était vraiment différent je pense qu'il y a peu de gens peut-être qui auraient parié que ça aurait pu être un bon positionnement, tu vois. Mais surtout, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que j'ai l'impression que tu as eu une croissance hyper rapide, notamment au début. Mais même avant ça, je me pose la question. Comment j'avais entendu dans un de tes podcasts, d'ailleurs je le recommande vraiment aux auditeurs d'aller écouter Expansion, c'est bien ça le nom du podcast qui est très cool, et si on veut apprendre à te connaître, et dans un des épisodes tu dis que t'es allé voir tes parents en leur disant ouais je veux créer des vidéos sur YouTube, donnez-moi un an et je vais y arriver, j'ai une idée de business model, tu vois. Mais moi j'aimerais savoir comment est-ce que t'en es arrivé à cette conclusion de j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube, c'est ça qui va me rendre heureux dans la vie, tu vois.
C'est une bonne question. Alors clairement, j'en étais pas en train de me dire je veux faire ça et ça va me rendre heureux dans ma vie. j'ai l'impression que je suis heureux aujourd'hui. Je suis clairement heureux aujourd'hui dans ce que je fais. Je savais pas exactement dans quoi je me lançais à ce moment-là. Et comment est-ce que j'en suis arrivé là? Bah, je suis arrivé à la fin de mes études. J'ai terminé quand j'avais 27 ans mes études supérieures en master en finance à Lausanne en Suisse, là où j'ai toujours habité.
Vous terminez tard vos études.
Ouais. Bon, j'ai terminé tard mes études parce que j'ai pris 3 ans de plus. J'ai dû faire l'armée en Suisse. J'ai fait un an d'armée. J'avais redoublé une année et puis j'avais pris une année sabbatique encore entre ma licence et mon master. Donc j'aurais pu finir 3 ans plus tôt, mais j'étais pas pressé. et je suis très content de pas avoir été pressé parce que les années étudiantes, je les ai trouvées très cool. Donc voilà. Puis j'avais le loisir de ne pas être ultra pressé d'aller travailler parce que j'étais chez mes parents et puis que je pouvais rester chez mes parents jusqu'à ce que je finisse mes études. Donc voilà, mais vers la fin de mes études, mon master, ça a traîné un petit peu, j'ai fini l'armée pendant, j'ai pris un petit peu plus de temps, j'ai cherché un stage dans une banque, j'ai pas réussi, j'ai perdu 6 mois, et tout ça m'a un petit peu amené à me poser des questions, à me libérer du temps mental aussi, de bah comment est-ce que je remplis mon emploi du temps, le reste de mon temps libre, etc., qu'est-ce que j'ai envie de faire, et je regardais beaucoup de vidéos, j'ai suivi des formations, des machins, le marketing digital, ça m'intéressait beaucoup, je me suis dit tiens, ça a l'air intéressant. Et pour faire la version courte de tout ça, parce qu'aussi j'en parlais sur mon podcast et que ça peut être long si j'ai envie, à la fin de mes études, j'ai lancé une agence de marketing. J'ai voulu lancer ma propre agence de marketing digital, ce qui est un bien grand mot pour ce que c'était, c'est-à-dire moi qui toquais à la porte de petites entreprises pour leur dire bonjour, donnez-moi de l'argent pour que je m'occupe de vos réseaux sociaux et que je vous fasse gagner encore plus d'argent. Voilà, ça c'était la promesse. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que les portes se claquaient très 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 souvent. Ouais. Et il y en a quand même un ou deux, il y en a deux qui ont dit oui et j'ai pu lancer un petit peu cela et terminer mes études là-dessus. Sauf que je me suis rendu compte à la fin de ça, au bout de 9 mois là-dedans, que j'avais commencé ça pour être mon propre patron et avec des belles ambitions entrepreneuriales. Puis ensuite je me suis rendu compte, mais en fait je suis de par le business model que j'avais choisi aussi, bien sûr, je suis un petit peu l'esclave de ces entreprises pour lesquelles je travaille, quoi. Et je me suis dit, bon, si j'ai la prétention de pouvoir faire grossir les réseaux sociaux de ces entreprises, mais que je n'ai pas envie de faire grossir leur business, pourquoi est-ce que j'essaierais pas de faire grossir le mien dans ce domaine-là? Et ça m'a tenté. Et le challenge me tentait parce que j'aime bien les... Je suis assez facilement stimulé par les challenges, les choses qui me semblent difficiles à faire et à accomplir. J'ai envie d'essayer... juste pour les avoir fait, en fait. Et je me suis dit, putain, lancer une chaîne YouTube, là, si ça marche, ce serait stylé, quoi. Ça m'a l'air difficile, ça m'a l'air d'être un challenge intéressant. J'y connaissais rien en création de contenu. J'avais jamais fait
grand chose avec une caméra ou quoi, mais je me suis dit bon bah, c'est le bon moment, j'ai fini mes études, je suis censé chercher du travail dans une banque ou dans une grosse boîte et tout, ça pourrait être le moment de tenter. Okay, et j'ai commencé à faire quelques petites vidéos au début en faisant croire à mes parents que je cherchais du travail, et finalement bah évidemment il fallait évidemment leur annoncer ça une fois, et j'ai discuté avec eux de mon idée de faire ça, et de par toutes les recherches et tout ce que j'avais consommé à propos du marketing digital, à propos du marketing de réseaux sociaux et tout ça, bah je voyais assez bien dans l'idée comment je pouvais monétiser une audience si j'arrivais à en avoir une. Ouais. Et c'est ça que j'ai en gros présenté à mes parents pour les convaincre de continuer de me nourrir et de me loger pendant 9 mois. C'était au bout de 9 mois, on s'était mis d'accord sur le fait qu'il faille que j'ai... moi, je leur avais dit, dans 9 mois, à la fin de l'été, j'ai un premier produit qui me rapporte de l'argent et qui, j'espère, peut commencer à m'aider à vivre de ça. Ouais. Et ça me semblait assez...
9 mois, c'est ambitieux quand même. Hein.
Ouais, je crois. Je sais pas. J'avais pas de benchmark de ouf, tu vois. Je savais pas trop sur quoi me positionner et tout. Mais tiens. Un an, ouais. 9 mois. Ouais, 9 mois. Bah, je sais pas, j'avais dit à la fin de l'été, on était en janvier, tu vois. Ouais. Et de là a découlé un petit peu tout le plan pour arriver à faire ça, à faire des vidéos. Et avant de ce produit, etc. Et c'est ce qui s'est passé pour le coup. Même si j'étais loin de pouvoir en vivre à ce moment-là, bah, j'avais quand même fait mes preuves aux yeux de mes parents sur le fait que j'étais motivé parce que j'avais vraiment fait ça. Et surtout, à mes yeux à moi, je me suis rendu compte, quand tu fais ça pendant, si t'as pas besoin de faire ça pendant 3 ans pour savoir si ça te plaît tous les jours, de faire du montage, de réfléchir, d'écrire des vidéos, de tourner, de travailler à bien plus que 100%, parce que sinon c'est que t'as peut-être pas assez engagé, parce que ça va pas être, il faut y mettre les heures. Et c'est comme ça que c'est parti.
Ouais. Ok. Ouais. Donc en janvier, t'avais 0 abonné, 0 chaîne YouTube, rien du tout.
Ouais.
Et ok. Et par quoi on commence quand on se met là-dedans? Alors moi j'ai peut-être une petite idée, tu vois. Je me dirais bon, il faut tout de suite peut-être créer le produit et avoir la page de vente, tu vois. Je me dirais plutôt avant même d'avoir l'audience.
D'accord.
Mais toi, comment est-ce que tu t'es organisé? Parce que j'ai l'impression que ouais, la chaîne a eu un très beau succès, quoi, en tout cas dès le début. Donc et c'est pas si évident quand t'as une chaîne YouTube, je trouve, de convertir ton audience en acheteur.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
De tes produits, tu vois. Il y en a plein qui se cassent les dents quand même, tu vois. Mm-hmm. Donc
tu veux dire d'un point de vue, la procédure d'un point de vue un petit peu business et tout ça.
Comment tu t'as procédé un peu?
J'ai procédé. Alors j'avais la chance, entre guillemets, de pouvoir quand même avoir une certaine expertise dans un milieu qui me plaisait beaucoup, qui était la musculation, la nutrition et tout ça, parce que du coup j'avais 27 ans et ça faisait 10 ans que je faisais mes preuves sur moi-même et mon corps par toutes ces trucs que j'ai raconté avant sur la muscu, etc. Donc il y avait l'histoire à raconter, comme quoi avant j'étais une crevette et maintenant c'est un petit peu mieux, ça m'a pris du temps mais mais j'ai l'impression d'avoir compris comment faire. Et merde, je sais plus où j'en étais. Et du coup, je pensais pouvoir aider quelqu'un d'autre à faire cela parce que j'y étais arrivé pour moi. Et je me suis dit, bah, ça, je peux le valoriser. Ça, je peux le vendre, on dira. C'est là-dessus tout de suite que je me suis dit, tiens, ça peut être mon idée. Pourquoi? Également parce que quand j'étais plus jeune, c'est quand j'ai commencé à faire de la muscu sérieusement que j'avais acheté un programme d'entraînement à une personnalité publique sur YouTube, je crois. Je sais pas s'il fait toujours des vidéos ou quoi. Un Américain, moi j'ai toujours suivi quasiment que des Américains et tout ça, beaucoup en tout cas au début. Et j'avais acheté son PDF à $70 et tout. Le programme était très bien, mais je me suis dit, le mec, il vend des PDF à $70. Je pense qu'il en vend pas mal. Purée, le mec, il se met bien. Je me suis dit, tu vois. Et en plus, c'était bien. C'était de la valeur. Moi, j'ai bien aimé son programme. Je trouvais que c'était très bien. Je me suis dit, c'est fou de faire un win-win comme ça. Et, ouais. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé, ça, c'était une idée que j'avais en mode, OK, c'est un business testé, approuvé. Ça fait 8 ans que des Américains, ils font ça. Je me suis dit, bah, en fait, je pense que le premier vrai produit que je pourrais essayer de sortir, ça pourrait être ça, un programme d'entraînement et de nutrition, parce que je pense avoir les connaissances, l'expérience et le fait de. En fait, ce qui me manquait maintenant, c'était l'audience et les gens et la crédibilité et l'autorité entre guillemets pour dire j'ai fait ça, c'est bien, achète-le. Et ouais. c'est de là qu'a découlé un petit peu tout un plan que j'ai eu de création de vidéos. Ouais. Pendant ces 6 de 8 mois, je savais qu'il fallait que je fasse X vidéos sur la nutrition qui traitaient de différents sujets qui étaient censés être remplis de valeur. Et je pense que c'est le cas. Il y en a beaucoup qui marchent très bien encore aujourd'hui parce que j'ai essayé d'expliquer toutes les bases et les fondamentaux sans cacher. J'essayais pas de cacher en mode, non, je peux pas dire ça parce que les gens ensuite qu'est-ce que je vais leur dire enfin, j'ai pas envie de cacher le truc en mode, bah, si tu veux toute l'information, il va falloir payer. Donc, ouais. J'essayais vraiment de donner le maximum de valeur. Aussi en le minimum de temps, parce que je voulais que mes vidéos soient rentables, je voulais que chaque seconde apporte quelque chose à la personne. Mais je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo sur les calories, les macronutriments, une vidéo sur le jeûne intermittent, qui est quelque chose que je pratique depuis longtemps, une vidéo sur ci, sur ça, histoire de créer du contenu, essayer de trouver des gens que ça intéresse, me créer une audience et en plus me créer la crédibilité de parler de ça. C'est que je fais des vidéos où j'ai l'air de savoir ce que je raconte, c'est que peut-être le jour où je vends quelque chose sur le même sujet, les gens vont se dire bon bah si ça se trouve il sait ce qu'il raconte aussi dans la formation qu'il vend, tu vois. Mon plan de base c'était justement que ce processus de création de vidéos culminerait sur une vidéo de transformation que je ferais, où j'essaierais de faire une transformation physique. J'ai fait 10 semaines, ouais. Une transformation physique sur 10 semaines avec un avant après. Pourquoi? Parce que j'avais bien vu, ça avait déjà été testé et approuvé des milliers de fois sur YouTube, que ces vidéos peuvent faire des millions de vues et que tout le monde adore l'histoire d'une belle transformation physique, mentale ou quoi. Mais quand c'est visuel, encore plus sur la miniature, bah ça fait des clics. Et je me suis dit OK, je vais préparer ce programme, je vais préparer cette vidéo et je vais sortir les deux en même temps et je vais annoncer la sortie de mon programme dans cette vidéo transformation dans laquelle j'espère que j'aurai eu des résultats. Mais justement pour moi cette vidéo c'était entre guillemets encore une preuve en plus pour dire bah regarde ce que j'ai fait en 70 jours. Peut-être qu'effectivement si tu veux essayer de faire quelque chose de similaire, ça pourrait t'intéresser. Et c'est ça qui s'est passé concrètement. Okay. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait globalement.
Non, mais très cool. Mais merci.
Que ça répond à ta question.
Non, mais merci beaucoup, tu vois, pour tous ces détails. Tu vois, moi, j'accompagne, tu vois, quelques auditeurs du podcast justement qui veulent se lancer dans des aventures de chaîne YouTube ou qui veulent se lancer dans des aventures de blog ou même de création de podcast, tu vois. Mmh. Et moi, je leur donne ma recette, mais maintenant, je leur donnerai aussi, tu vois, cet épisode et je leur dirai, écoute, regarde comment Eric il a fait et tu verras, la méthode c'est un peu toujours la même, tu vois. Mmh. Et du coup, tu vois, moi j'aime bien parler aussi de ces sujets-là parce que dans le sport difficile de trouver un modèle économique qui te permette aussi de vivre de ta passion et souvent les gens en fait voient pas l'envers du décor, c'est-à-dire dire ah tu vois on peut penser tiens ah Eric il passe sa journée à faire des muscle-up, des handstands et faire des vidéos. Putain, c'est cool d'être youtubeur, mais la réalité, c'est qu'il y a un boulot de monstre derrière et que si tu veux que ça paye, il faut se bouger, quoi. Vraiment, faut sortir les doigts comme on peut dire de façon un peu mal polie, quoi. Donc merci pour ton retour d'expérience, quoi. Yeah. Et toi, t'as bossé énormément là sur cette période-là.
Oui, beaucoup et à la fin trop, je m'en suis rendu compte après coup parce que quand j'ai sorti cette vidéo et cette formation, j'étais un peu en retard parce que je voulais la sortir avant l'été parce que c'est un truc qui devait t'apprendre à faire les abdos, donc il fallait que je la sorte avant l'été. Au final, elle est sortie, je sais plus, fin juin, je crois, quelque chose comme ça. Et les derniers jours, c'était du 14 heures par jour non-stop parce qu'il fallait faire la page de vente, parce qu'il fallait tout boucler en même temps, tout ensemble. Et c'était terrible, vraiment la fin, c'était terrible. Je me suis rendu compte sur le moment, mais c'était trop tard. Et du coup, surtout après coup, quand j'y ai réfléchi, qu'il fallait que j'évite de me remettre dans une position pareille où il fallait que je sois à ce point-là non-stop pour boucler des délais que je m'étais infligé. Donc, je me souviens que ce qui était bien, c'est que juste après, j'ai publié ça. Deux jours après, je suis parti une semaine en vacances avec ma copine en Espagne. C'était en gros la récompense. Et ça m'a fait du bien de pouvoir décompresser. Mais c'est là que je me suis rendu compte. Ouais. Il y a sûrement moyen de faire pareil, mais différemment pour moi, on dira.
Et t'es parti alors que t'avais lancé la page de vente, parce que généralement, t'as quand même pas mal de retours un peu clients, à faire un peu de SAV et tout, donc ça t'a pas gâché des vacances?
Ah non, alors... des vacances, j'en ai pas eu des vraies jusqu'à l'année dernière, éventuellement jusqu'à 2020, parce que je travaillais tout le temps pendant les vacances. Typiquement, tu me parles de la vidéo handstand que tu as vue. Bah, une bonne partie des images de cette vidéo handstand ont été filmées à Majorque pendant cette semaine-là où j'étais en vacances, juste après la sortie de mon programme. La moitié de la vidéo a été filmée par ma copine pendant les vacances là-bas. Et quand j'étais en vacances, je travaillais tout le temps. J'ai fait plusieurs vidéos. On est parti en Thaïlande, en Corse. À chaque fois, j'ai fait une vidéo dessus, tu vois.
Bien sûr.
Je dis pas que c'est une bonne chose. Je me suis rendu compte après coup que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Et là, en 2020 et en 2021, je suis parti deux fois en vacances, une semaine ou 10 jours, et j'ai pas fait de vidéo et j'ai essayé de pas trop travailler. Mais voilà, je peux pas déconnecter le cerveau. Je pense à des trucs. J'ai envie de faire des choses. Et du coup, c'est bien parce que quand je rentre, je suis chaud. J'ai trop envie de me remettre dedans et je me dis bon, c'est bien de se reposer, mais là, on se remet au boulot et tout. Et ça fait du bien de réussir à déconnecter un petit peu.
Ouais, c'est dur quand t'es entrepreneur, je trouve, de vraiment de déconnecter. Et... surtout quand t'es au début d'un projet, que tu sens qu'il te plaît, que tu sens que c'est vraiment ta raison d'être qui est dedans et que tu vois que ça commence à marcher, mais que c'est pas encore hyper suffisant pour que ça soit vraiment la panacée, tu vois.
Pourquoi arrêter quand t'es dans ce cas de figure, tu vois? Tout a l'air aligné, putain, t'as envie d'y mettre encore plus, tu vois.
Toi, tu te rends compte à ce moment-là que c'est, t'as l'air de beaucoup bosser, ça a l'air d'être dur, mais tu te rends compte que c'est ta raison d'être, ou comment est-ce que tu gardes la motivation, quoi? Qu'est-ce qui te plaît dans tout ça?
Ce qui me plaît dans tout ça, je sais pas si je pourrais parler de raison d'être vis-à-vis de ça, ou en tout cas pas à ce moment-là.
Ouais.
La motivation et tout, ce qui me plaisait vraiment, c'était cette progression, c'était ce challenge, c'était de me dire, mais je vais peut-être y arriver, je vais probablement, si je le fais, ça a l'air, hein, à chaque fois que je fais une petite action, j'avais quand même un feedback assez évident et rapide sur le résultat de l'action que je venais de faire. Et il suffit de regarder, entre guillemets, le nombre d'abonnés, c'est comme une métrique assez facile si tu veux n'en garder qu'une seule dans ce milieu pour évaluer ton progrès, même si t'es obligé du coup de l'évaluer par rapport aux autres, parce que qu'est-ce qui est beaucoup ou pas beaucoup d'abonnés en un mois, par exemple, c'est subjectif. Mais j'avais ce benchmark et ce feedback, et j'étais juste accro au fait de ressentir ce progrès, de ressentir tout ça croître et prendre forme. Et encore plus quand je me disais, mais en fait, si ça se trouve, ça pourra peut-être devenir mon métier et tout ça. Et je me suis dit, ouais, mais ça a l'air trop bien. Enfin, j'étais juste à fond dedans et j'avais juste rien. Mais moi, j'ai une personnalité assez obsessionnelle. En fait, il y a la plupart des choses, soit elles m'obsèdent ou elles m'intéressent énormément, soit elles m'intéressent pas du tout et j'ai pas du tout envie de les faire. Donc, généralement, quand je suis dans quelque chose comme c'était le cas là, j'étais juste à fond dedans. Et j'ai tendance à m'oublier peut-être même parfois dans cela. Mais la motivation, c'est difficile. Je sais pas, je pense que la passion et l'engouement que j'avais pour cela et la passion que j'ai découvert pour la création de vidéos, j'avais aucune idée que ça me passionnerait, on dira. Ouais. Ça a beaucoup aidé, mine de rien, parce que je sais pas pourquoi, comment j'étais motivé pour travailler autant et faire tout ça. Parce qu'il y avait du feedback. Tu vois, comme tu l'as remarqué, et ça c'est un truc, j'ai juste la chance, j'imagine, j'ai jamais galéré de ouf en fait, j'ai jamais eu une période de stagnation énorme, j'ai pas fait 50 vidéos pour 50 abonnés au début, sans que ça marche et en ayant l'impression de les faire dans le vide, et je pense que ça m'a énormément aidé d'avoir ce feedback positif et linéaire et croissant et même exponentiel au bout d'un moment, qui me montrait la preuve de... En fait, j'avais vraiment un retour sur investissement de chaque chose que je faisais. Je me suis dit, mais il faut que j'investisse de fou. C'est le bon moment pour investir, là. Et je pense que ça m'a aidé là-dedans.
Ok, cool, ouais. Ouais, t'as une histoire un peu différente du coup de Guillaume de Super Echo. Lui, je crois qu'il a fait 2 ans avec 5000 abonnés, tu vois. Moi, quand tu m'as raconté ça, je lui ai dit, mais comment t'as fait, quoi?
Moi, j'admire bien plus ce qu'il a fait lui que moi, tu vois. ça devait être beaucoup plus dur.
mais ok, mais... Super, super cool, super cool. Et à quel moment, tu te dis, c'est bon, là, j'ai réussi? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta tête où tu t'es dit, bon, ok, là, je peux peut-être un peu, enfin je peux me dire, enfin tu ou tu t'as pu te dire j'ai réussi ou j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre. Mmh. Je sais pas, c'est une barre d'abonnés, c'est une barre de chiffre d'affaires, c'est une barre de je sais pas moi, de comment est-ce que tu le quantifiais, est-ce que tu t'es fixé un objectif pour te dire à ce stade-là, je pourrais dire que
j'ai réussi ou
que j'ai réussi,
j'y suis arrivé. Ouais, clairement, moi j'avais un objectif clair et net dès le départ et justement ça a été un grand moment de remise en question quand je l'ai atteint, c'était le fait de pouvoir me dire que je suis youtubeur entre guillemets. Pour moi, être youtubeur, ça veut dire pouvoir vivre de ça, et ça voulait dire et quitter la maison de tes parents si t'es capable d'être autonome et de gagner ta vie, tu vas habiter chez toi. Ça me semble assez logique, et c'est ça qui a été le vrai symbole pour moi de la réussite de ce que je faisais. C'était le moment où j'ai pris mon appart et que ça y est, c'est moi qui payais toutes mes factures et tout ça. Et j'étais là, ok, maintenant j'ai réussi entre guillemets ce que je voulais faire, parce que depuis le début, l'objectif, le Graal, c'était de pouvoir gagner ma vie en faisant ça. Je voyais pas au-delà, parce que je voyais pas l'intérêt. J'allais pas me dire, ok, mon but, c'est de faire un... Bah oui, évidemment, tu peux te dire, ok, on va créer un empire monstrueux, on va convertir la planète. Mais je me disais, on va commencer par un truc qui me semble déjà suffisamment ambitieux, réussir à gagner assez d'argent pour vivre de ça. En plus, en Suisse, parce que en Suisse, c'était quand même un challenge en plus de par le coût de la vie sur place. Et quand j'y suis arrivé, c'est là que j'avais l'impression d'y être arrivé. Et c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Pourquoi est-ce que je continue? Quel est cet objectif qui m'animait à tel point avant? Il m'en faudrait un nouveau. Il faudrait une nouvelle raison de continuer plus loin. C'est quoi le but maintenant? C'est de faire plus d'argent? C'est de faire plus d'abonnés? C'est de surfer la vague et d'en faire le moins possible et d'essayer de continuer à pouvoir en vivre en faisant le moins possible et puis en faisant d'autres trucs? Il y avait énormément d'options et que moi pouvais décider ce que je voulais faire. Et c'est là qu'il y a eu un grand moment de remise en question quand, pour répondre à ta question, ça y est, j'avais l'impression de gagner ma vie en faisant ça. Ouais.
C'est à ce moment-là, justement, là, que tu t'enfermes, là, pendant 2 jours, et que t'écris et que tu recommandes, d'ailleurs, ce bon exercice un peu de développement personnel, tu l'as trouvé où, d'ailleurs? Tiens, je suis curieux de savoir, comment,
J'avais entendu un petit peu ce concept de dopamine détox, tu vois, et cette espèce de cure de dopamine où tu essayes de te priver de la plupart des choses qui te donnent un shot de dopamine. Et aujourd'hui, tout ce qui est un écran, c'est le cas, même la musique, plein de choses, avoir des relations avec les gens, etc. Et je me suis dit, en fait, il faut absolument que je réfléchisse à ce que je veux faire par la suite. Parce que moi, j'ai toujours eu des objectifs et des choses qui m'ont drivé. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, après une ou deux vidéos, j'ai écrit mes objectifs dans un petit carnet en mode « je veux atteindre ça ». Et c'est les trucs qui me passaient par la tête. Il y avait un nombre d'abonnés, il y avait un nombre d'argent mensuel à gagner, il y avait différentes choses en mode « j'ai envie d'être reconnu par mes pairs dans mon milieu parce que je trouve ça cool et j'ai envie d'être valorisé dans mon travail », entre guillemets. Ouais. Et régulièrement, je les réécrivais dans le même carnet que j'ai toujours, et ça a évolué un petit peu, etc. Mmh. Et donc, c'était quand même une habitude pour moi d'avoir l'impression d'avoir une certaine ligne directrice de ce que je voulais faire. Et là, je me suis dit, j'ai atteint certaines de ces choses. Qu'est-ce que je fais à présent? Il faut absolument que je réfléchisse. Et c'est là que, effectivement, je me suis isolé pendant 2 jours, dans le sud de la France, tout seul, sans personne et sans connexion, sans internet, sans rien du tout, et juste un carnet où je devais écrire des trucs. Je regardais l'horizon, j'étais dans un bel endroit, donc j'avais envie d'être dans un endroit un peu inspirant et tout, et c'est là que je me suis demandé mais qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce moment, pourquoi. Et c'est là que j'ai listé certains objectifs, certains projets que j'avais envie de faire, et que pour chacun d'entre eux je regardais, ok, alors ça, quels peuvent être les impacts à court terme, à moyen terme, en termes d'impact pur, genre impacter des gens, etc., faire propager un message. En termes d'impact financier, comment se ranger toutes ces choses? Et surtout, il a fallu que je me pose la question sincèrement de pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça? Est-ce que j'ai juste envie de me faire un max de thunes? Est-ce que j'ai envie de toucher un maximum de personnes? Est-ce que je veux faire un entre-deux là-dedans? Est-ce que je veux juste utiliser ça comme un tremplin pour devenir, je sais pas, speaker ou quelque chose d'autre? Ou bien acteur, sûr. Comme certains utilisent leur chaîne YouTube pour devenir acteur. Est-ce que c'est une fin en soi pour moi, YouTube? Je me suis posé un peu toutes ces questions. Je suis arrivé à des conclusions
plus ou moins personnel, je dirais, parce que je pense que c'est le genre de choses où il faut que ça résonne vraiment en toi, ouais. Et le fait de les partager ou même de dire regarde, compris, ça ouais. peut être mal compris ou en fait ça peut dénaturer le processus en mode si tu sais que tu vas le ouais. dire aux autres, tu vas peut-être vouloir glorifier ouais. le truc un peu, tu vois. Mais
ouais, on est en vie dans une société où il y a des tabous, où il y a des choses qu'on n'ose pas dire et, et tu peux te fixer des objectifs qui, vis-à-vis de la société, parfois peuvent paraître amoral
ou trop beau pour être trop beau. Ou justement trop moraux, tu vois. Ouais, c'est ça qui me faisait peur, entre guillemets. Parce que moi, mon objectif, c'est clairement pas, et ça, je le dis parce qu'il n'y a pas de mal, c'est clairement pas de faire énormément d'argent. Ça m'intéresse pas. J'ai jamais été très motivé par l'argent. Et c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je me pose ces questions une fois que manifestement j'avais assez pour manger et j'ai dû me poser un petit peu les questions de tout ça. Je suis arrivé à des conclusions plus ou moins claires pour moi et c'est de là qu'est né mon podcast typiquement sur lequel je parle juste pour parler parce que j'ai le luxe de pouvoir prendre le temps de parler comme toi tu le fais avec des gens sans un retour sur investissement immédiatement clair et financier typiquement mais ça permet de propager un message, ça permet de connecter avec plus de personnes et ça faisait partie d'une stratégie à très long terme que j'avais d'impact, on dira, d'impact global. Et je suis un petit peu parti depuis là.
Ok. Et cette dopamine détox, là, ça a été un gros déclencheur pour toi. Tu penses que écrire ces objectifs, prendre le temps de réfléchir à qui tu es, quelle est ta raison d'être. Tu penses que c'est vraiment ça a été un gros déclic, ça a été un gros changement pour toi. Moi, je sais que je suis un gros fanat de ce genre d'exercice, tu vois, un peu de développement personnel, et qu'à chaque fois que je le fais, je ressors hyper fort, tu vois. Juste avant qu'on enregistre, je te disais là j'ai eu 3-4 mois où je me posais un peu des questions, et j'essayais de prévoir un peu la suite, et je sais que le premier mois justement, il n'y avait pas de cadre dans cette réflexion. Et que le fait d'avoir commencé à écrire, le fait d'avoir commencé à poser des choses sur mon petit carnet, d'avoir fait des petites journées de méditation un peu comme toi où je m'isole, je sais que c'est un énorme shot de motivation et de sérénité, je trouve, tu vois, pour la suite. Je sais pas comment toi tu le vois, mais il y a un avant, un après, ce type d'exercice.
Ouais, clairement. Pour moi, il y a un avant, un après. Je sais pas si je parlerai de déclic, en fait. Parce que je suis pas sûr que j'ai eu. En fait, je suis pas sûr que j'ai eu des révélations extraordinaires. Je pense plutôt que c'était les choses qui étaient déjà là ont eu un projecteur sur elles et je les ai vues de façon plus nette et j'étais plus serein en partant dans certaines directions qu'avant où j'étais pas sûr de la destination. Mais je pense pas que j'ai eu de révélations extraordinaires et de virement de, tu vois, de, j'ai pas fait un demi-tour dans ma façon de procéder à propos de ça, mais tout est devenu beaucoup plus clair. Et s'il y a pas eu de déclic, il y a eu un impact fort qui est que là, même j'y pensais pendant que tu parlais juste là, je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, toutes les choses que j'ai mis, que j'ai réfléchi, parce que c'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant, tout est toujours vrai, je suis toujours dedans, j'ai suivi les conclusions auxquelles je suis arrivé à la fin de cet exercice, je suis toujours dedans aujourd'hui et je suis super content, tu vois. Ouais. Et du coup je me dis bah c'était extrêmement positif en tout cas. Ouais. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu un enfin faut tu vois, faut pas non plus faire cet exercice en plus quand il est un petit peu spectaculaire, tu t'isoles, etc., en te disant, ouais, mais ça va révolutionner ma vie, et que si t'as pas l'impression d'être une nouvelle personne à la fin, faut pas croire que l'exercice est raté, clairement, moi, j'avais pas l'impression d'avoir changé. Par contre, vraiment, la direction à prendre était plus claire, et aujourd'hui, je regrette pas. Donc vraiment, je suis content d'avoir fait ça, et je pourrais que le recommander. Et surtout, comme tu l'as fait remarquer, d'écrire, c'est tellement puissant. C'est tellement différent d'écrire les choses, de te forcer à devoir les formater, les clarifier de façon à pouvoir faire des phrases et pas juste des pensées qui sont tellement volatiles, qui viennent, qui partent, qui sont pas claires. Et le fait d'écrire, c'est un engagement extrêmement fort pour nous, les êtres humains. C'est pour ça que quand tu signes quelque chose, ça a cette valeur morale. Quand tu écris tes objectifs, c'est un espèce d'engagement envers toi-même, tu vois. Tu sais que tu veux pas te mentir, tu sais que tu les as écrits.
T'as choisi
ils sont
les
là. Tu peux brûler la feuille et tout ça et essayer de te mentir. Mais non, tu les as écrits. C'est que devait y avoir une raison. Et selon moi, ça te pousse bien plus à vouloir aller dans la direction qui va vers ses objectifs. Donc, je pourrais que recommander de.
T'as d'autres routines ou d'autres exercices un peu de développement personnel? Parce que j'ai l'impression que il y a quand même, t'as quand même une super belle évolution en termes de confiance en toi. Toi, tu disais au collège un petit peu, peut-être un peu introverti, très timide et tout. Là aujourd'hui, bon, t'es peut-être toujours un introverti et toujours un timide, mais qui dégage quand même beaucoup de confiance et de sérénité, tu vois. Et on voit vraiment que tu sais où tu vas et que t'as confiance en tes forces. Du coup, ouais, est-ce que t'as d'autres, je sais pas, d'autres routines, d'autres exercices que tu mets en place pour
Oui, alors aujourd'hui j'ai l'impression d'être un peu moins timide. Je suis toujours autant introverti, ça je pense pas que ça changera. J'adore être seul et j'ai besoin d'être seul pour recharger mes batteries et c'est comme ça que ça marche pour moi. Un petit peu moins timide et j'ai réellement l'impression aujourd'hui d'avoir très confiance en moi de par les choses que j'ai pu faire et toutes ces preuves que j'ai pu accumuler que j'arrivais à faire des choses en fait. Parce que comme je l'ai déjà raconté, c'est vrai que quand on me demande la confiance en toi, d'où elle vient et tout. Moi, c'est dans le sport que je l'ai trouvé parce que quand j'ai finalement réussi, après 3-4 ans, à changer un peu de direction, à faire des choses qui marchaient et à avoir un vrai retour sur investissement sur mes efforts, je me suis dit, waouh, mais je l'ai mérité, je les ai mérités, ces résultats. Et dans le sport, c'est sans certaines techniques de triche, etc., c'est impossible de ne pas mériter tes résultats. Tu peux pas aller acheter des abdos au magasin d'en fait, tu peux pas les voler à quelqu'un ou les trouver par terre. T'es obligé de taffer pour les avoir. Et en plus, moi, ça m'a pris tellement longtemps avant d'y arriver que au bout d'un moment, c'est vrai que je devais me dire quelque part, bah en fait, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être juste réservé aux autres, c'est peut-être un peu impossible en fait. Et quand j'y suis arrivé, bah je me suis dit, mais en fait, je croyais que c'était impossible de réserver aux autres, mais j'y suis quand même arrivé et je m'en attribue une bonne partie du mérite. Je suis obligé de m'en attribuer une bonne partie du mérite. Et donc j'avais eu cette preuve vis-à-vis de moi-même que j'avais réussi à faire cette chose qui me semblait impossible ou très compliquée à atteindre. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, toutes les autres choses où je me dis, mais il y a des barrières pour ça, ça c'est pas pour moi, ça c'est impossible. En fait, tout a été un peu remis en question. Je me suis dit, bah, si j'ai réussi à faire ça, en fait, je peux peut-être réussir à faire n'importe quoi. Et c'est aussi pour ça que j'avais cette confiance en le fait que, bah, je vais lancer une chaîne YouTube. Il y a quand même des chances correctes que ça marche. Ça a l'air impossible, mais en vrai, ça, sur un malentendu, j'ai déjà eu la preuve que ça peut marcher. Ouais. Et c'est comme ça que cette confiance est née, parce que elle était clairement inexistante quand j'étais plus jeune. Et ensuite, au fur et à mesure, j'essaie de développer ces petites choses, réussir à faire des petites choses, accumuler, en fait, tout un amas de preuves que j'ai réussi à faire des trucs. Et en fait, ça devient de plus en plus difficile de me mentir à moi-même en me disant, bah non, ça, tu peux pas y arriver. Bah non, ça, c'est pas pour toi. Et ça fait naître une certaine confiance, en tout cas, en moi, qui est que, j'ai l'impression d'être au clair avec ce que j'ai fait, ce que je peux réussir à faire et avec qui je suis. Et ça, c'est très important, je pense. Et pour en revenir à ta question qui est de petites routines ou de petites choses à faire, typiquement, si je devais en donner une qui me semble très importante et un peu ouh, gnangnang parfois, parce que c'est un peu les clichés du développement personnel, tu vois, mais c'est...
Ouais, mais si ça marche.
Ouais, c'est vraiment de faire un travail d'introspection un peu sur pourquoi tu fais les choses, pourquoi est-ce que tu veux faire certaines choses. Même si t'as l'air d'être perdu, tu vois, même si t'as l'impression d'être perdu dans ton travail, tu sais pas trop pourquoi tu travailles, t'es pas obligé de chercher un pourquoi quand t'es déjà en train de faire ta passion et créer des vidéos et tout ça, comme moi, en mode, ah ouais, pourquoi est-ce que je continue? Pourquoi est-ce que tu fais les choses telles qu'elles sont? Est-ce que tu peux pas remettre en question certaines choses que tu fais et te demander pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est parce que j'ai l'obligation pour manger? Est-ce que c'est parce que mes parents attendent ça de moi? Parce que mes potes vont se moquer de moi si je le fais pas? Pourquoi est-ce que je fais ces choses? Et ça devrait déboucher un petit peu plus facilement à la réponse de qui je suis, qui suis-je? Parce que normalement, si tes actions sont alignées avec pourquoi, si le pourquoi correspond vraiment à ce que tu fais et que tu réponds de façon satisfaisante à ce que tu fais, ça devrait être aligné avec ton identité et donc tes actions devraient refléter qui tu es. Et donc c'est beaucoup plus facile pour toi de te dire, je fais ça, je sais pourquoi je le fais, je suis content de le faire. Bah c'est moi, je suis ça. Je ne fume pas tous les jours, je suis pas un fumeur, je fume tous les jours. Peut-être je me vois comme un fumeur. Je fais du sport régulièrement. Je suis quelqu'un de sportif. Et je me connais, je sais que je suis quelqu'un de sportif et du coup, j'ai l'impression de me connaître, j'ai l'impression de rien avoir à cacher dans mes relations avec les autres. J'ai rien à cacher, je ne prétends pas être quelqu'un d'autre. Et quand tu te mens pas à toi-même, tu peux te faire confiance bien plus facilement, tu vois. Ton pote, ton ex-meuf, elle t'a menti. tu lui fais plus confiance. Et comment tu veux te faire confiance à toi-même si tu passes ton temps à te mentir à toi-même, tu vois, c'est logique. Et donc enfin c'est logique. C'est un parallèle que je trouve intéressant, qui est de se dire la vérité à soi-même en premier, permet de la dire aux autres et ensuite de bénéficier des avantages de ça.
Ouais. T'as fait des tests de personnalité ou ce genre de choses?
J'ai jamais fait ça.
Jamais.
J'ai jamais fait ça. Je vois souvent des gens même c'est une petite anecdote à part, on dira, mais c'est vrai que je suis célibataire depuis quelques mois et je vais sur des applications de rencontres et des fois je vois des gens qui mettent leur type ENJH ou je sais plus, ces lettres là, ces choses comme ça, et j'ai vaguement, il faudrait que je le fasse une fois, ça peut être intéressant. Il me semble qu'il y a plein de tests en ligne qui permettent de faire ça.
Il y en a plusieurs. Moi je suis justement, j'en ai fait beaucoup récemment, tu vois, parce que je me suis posé la question de OK, j'arrive à monter des projets très gros. Et des fois, j'arrive à un moment où m'a presque burn-out, tu vois, et je me dis que ça me correspond plus, tu vois, et je me dis pourquoi ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de monter un projet à fond, et au bout d'un moment d'en être un peu écœuré, de plus en pouvoir et d'avoir besoin de changer. Et du coup, j'ai fait ces petits tests de personnalité pour savoir un petit peu est-ce qu'en fait je me trompe pas de job, quoi. Je monte des boîtes depuis que j'ai 23 ans, j'en ai 31. C'est quand même tu crées de l'insécurité, tu bosses comme un dingue, t'es pas sûr du résultat. Enfin, moi, les deux premières années, j'ai mangé des pâtes tous les jours, je sortais pas, il y avait rien, quoi. Il y avait rien dans ma vie, hormis le boulot. Je me suis dit, mais est-ce que ça me correspond vraiment, en fait, tu vois, est-ce que c'est vraiment ça qui va me rendre heureux de monter des projets à répétition, quoi? Et du coup, j'ai fait des tests de personnalité, ouais. Et ça m'a donné des réponses, justement, et dans ma personnalité, j'ai trouvé que, alors je pourrais te dire tous les tests, mais t'as le test, l'énéagramme, qui est assez bien, parce que c'est sur quelles sont tes motivations profondes et quelles sont tes valeurs profondes. T'as le profil DISC, c'est plutôt comment tu vas réagir en société ou comment est-ce que tu vas réagir dans un groupe, tu vois. Et il y a le MBTI aussi, qui est un peu les deux, tu vois, qui est un peu entre tes motivations intérieures et comment tu réagis dans un groupe. Et après, il y a le ProcessCom, et là, c'est directement lié à du management, et lié à comment est-ce que tu réagis au stress, comment est-ce que tu réagis aux motivations, comment est-ce que tu communiques. Si t'es dans une, donc je pourrais te recommander plein de,
ouais. Plein de. T'as l'impression d'avoir trouvé pas mal de réponses à tes questions là-dedans, du coup.
Bah du coup, moi j'ai fait l'énéagramme et tu vois, pour mes, je me connaissais très bien sur les tests très professionnels, donc le DISC et le ProcessCom. Quel est mon style de manager? Quel est mon style d'entrepreneur? Comment manager un peu les autres? Mais je connaissais pas mes motivations intérieures. Vraiment, tu vois, je savais pas ce qui me drivait. Et depuis, j'ai trouvé des éléments que j'avais pas vu en moi, et du coup ça m'a été super super utile, quoi. Ça a mis en lumière des choses que qui étaient tellement normales pour moi que je les voyais plus, quoi. Et du coup t'as des petits conseils du type faites attention à vous, trois conseils, tu vois, sur lesquels...
Des super conseils sur comment procéder par la suite.
Mais ça m'a été utile. Ouais. Ça m'a été très utile. Franchement, moi, je recommande aux gens de le faire.
Je serais curieux d'avoir ça et que tu me passes le lien.
Ouais, carrément.
Ou quoi.
Carrément.
Tu le mettes à disposition de tout le monde. Je pense que ça peut intéresser d'autres personnes.
Je mettrai un lien dans la description de l'épisode du test Ennéagramme que j'ai fait et de mon résultat, tiens, si ça peut intéresser.
J'ai regardé ça, clairement.
Si ça peut intéresser certains. Et du coup, moi, je suis un performeur obsédé de la performance.
Ah,
du coup, c'est peut-être pour ça que je suis allé interviewer des athlètes de haut niveau pour comprendre comment fonctionne la performance. Pourquoi est-ce que je me suis lancé le défi de faire 100 épisodes, tu vois, au début. J'avais fait un épisode, je suis sorti de là, je me suis dit, OK, je vais en faire 100.
C'est stylé, ça. Un peu. Ouais, c'est trop stylé.
Bah, tu vois, tu viens de passer 300 vidéos. Oui, il y a un petit truc.
Je suis à 50 épisodes de podcast, je me dis 100, c'est cool quand même. 100, c'est cool.
Mais du coup, quand je t'entends un peu, je me dis, tiens, il y a des petits points communs, peut-être que toi aussi tu l'aimes. Mais bon, voilà. Parenthèse à part, tu vois.
Très intéressant.
Il y a des trucs intéressants à en tirer. Et peut-être pour revenir à la confiance, est-ce que c'est peut-être aussi un peu pour ça que tu fais tous tes défis? Alors je sais que c'est assez à la mode sur dans le YouTube game, hein, tu vois, les je fais la méthode Wim Hof, je fais 1000 pompes ou d'autres. Toi, j'ai pas l'impression que tu vas trop là-dedans, mais t'en fais quand même quelques-uns. J'ai l'impression que c'est beaucoup pour sortir un peu de ta zone de confort et construire un peu ta confiance. Est-ce que c'est pour ça que tu le fais ou pas du tout?
Je sais pas si c'est pour construire ma confiance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que indirectement, ça, c'est le résultat également quand ça fonctionne ou ouais, même quand ça fonctionne pas en réalité. C'est vrai que d'un côté, il y a ce côté où j'ai fait X en Y jours. C'est un format qui marche assez bien sur YouTube quand il est bien présenté. C'est à nouveau l'histoire d'une transformation. C'est jour 0, je suis là, jour 30, je suis là. Si c'est bien narré, c'est bien raconté et que le héros, il suit les choses habituelles, il tombe un peu au début, c'est difficile, il se relève. Le schéma classique de l'histoire, tu peux essayer de l'appliquer aux vidéos et c'est ce que je conseillerais pour faire des bonnes vidéos. Donc, il y a toutes les ingrédients pour faire une vidéo qui peut marcher et tout ce qui reste à faire, c'est le faire et avoir envie. Et c'est autant certains utilisent ça comme thématique de chaîne et ils font que des vidéos comme ça. Et c'est là que selon moi, j'ai pas envie de faire ça parce que j'aurais l'impression que ça deviendrait, je partirais plus dans le, je fais ça parce qu'il faut que je le fasse, parce que il faut faire des vidéos, même si l'expérience ou le sujet m'intéresse pas plus que ça. C'est pour ça que j'en fais pas énormément et que celle que je fais, j'ai une réelle curiosité personnelle de tester ce que c'est, de tester, comment ça peut m'affecter personnellement. Généralement, alors, je reconnais que pour ce qui est de genre faire 1000 pompes en une heure, ça c'était plus pour le buzz et tout ça. On est d'accord, c'est pas ce que j'appelle une expérience spécialement. C'est vrai que moi j'ai plutôt fait des choses sur 30 jours, du style pas de réseaux sociaux pendant 30 jours, j'essaie d'être végétalien pendant 30 jours et de prendre des douches froides, de faire des choses comme ça. Avec une durée suffisamment grande, pas parce que c'est rentable d'un point de vue YouTube, non, je ferais mieux de le faire sur 7 jours, ça irait plus vite, le résultat au niveau des vues serait le même, j'en suis à peu près sûr. Et surtout, ce serait beaucoup moins pénible de faire la vidéo, mais parce que ça m'intéresse sincèrement, personnellement, de voir ce qui se passe, et j'ai réellement envie de voir ce que ça peut m'apporter. Et j'ai toujours eu un attrait spécial, j'ai pas fait 30 jours végétalien pour faire le spectacle, j'ai fait parce que ça m'intéressait vraiment de savoir est-ce que c'est un style de vie qui pourrait me correspondre. Je pensais pas que ce serait le cas. Je pensais que c'était trop extrême pour moi. Et effectivement, c'était trop extrême pour moi. Mais ça m'a donné des envies clairement là-dedans. Enfin, j'ai arrêté de manger de la viande depuis et je trouve que je suis assez content avec cela. Mais c'est vrai que j'aime bien quand j'ai envie de tester quelque chose. Je préfère le tester à l'extrême. Déjà parce que je suis quelqu'un d'assez extrême, mais parce qu'en plus c'est plus spectaculaire en vidéo. Et vu que j'en fais une vidéo, autant qu'elle fonctionne. Et quand c'est spectaculaire et extrême, ça marche mieux. Et une fois que j'ai testé l'extrême, c'est plus facile de faire deux pas en arrière, de me dire ok, je vais m'arrêter là finalement. Ça me va bien. Et l'extrême, je sais que c'est trop extrême pour moi, mais ça c'est bien. Et j'ai l'impression d'y gagner sur toute la ligne derrière. Ouais. Moi, j'ai appris des choses, j'ai implémenté des choses où je sais qu'il y a certaines choses que j'ai pas envie d'implémenter. J'en ai fait une vidéo, c'est bon pour le business. Et puis moi, j'adore faire des vidéos en plus. et voilà. Mais c'est pour ça que j'en fais de temps en temps quand j'ai envie et pas par pure pression de production, en tout cas.
Ok. Et hormis peut-être ce défi végétalien, c'est lequel le défi que tu retiens, tu vois, si tu devais en garder un qui t'a pas transformé le plus, mais qui t'a appris le plus sur toi-même, ça serait lequel? Déjà, bien joué d'avoir arrêté de manger de la viande, c'est une bonne chose.
Ouais, je sais pas si c'est un accomplissement énorme, parce que je pense que ça dépend. Il faut y trouver ce que tu veux. Si tu te sens privé, c'est que c'est pas pour toi. Et du coup, c'est pas un échec, selon moi, si jamais tu continues de manger la viande parce que t'en as envie. Mais, je t'avoue que j'en ai pas une qui me... La dernière, j'ai envie de dire la dernière où j'ai fait cette vidéo sur la méthode Wim Hof avec des bains glacés dans la nature et tout pendant 3 mois. Celle-là, c'est celle dont je suis le plus fier, déjà, de la vidéo, mais de l'expérience, c'est celle...
Okay.
Où je suis plus fier en fait de l'accomplissement entre guillemets d'aller me baigner dans de l'eau dans un lac de montagne à la fin. Je crois que je me suis dit que en fait je voulais en fait consolider, parce que cette vidéo là a une histoire aussi pour moi, c'est que j'avais commencé à prendre des douches froides un certain temps, puis j'avais arrêté pendant presque une année et ça m'avait vraiment déplu de me voir arrêter alors qu'avant je prenais des douches froides toute l'année, j'allais me baigner dans le lac en hiver. Et l'été d'après que j'avais arrêté, j'allais dans la Méditerranée à 22 et je la trouvais froide. Et je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir régressé, entre guillemets, comme ça. J'ai du mal à supporter de me voir comme ça. Et je me suis dit, ok, je vais me mettre un pied au cul. Je vais relancer cette expérience. Je vais pousser le truc encore plus à l'extrême pour pouvoir me remettre dans les conditions pour repartir sur du bon pied derrière. Et ça a été le cas parce qu'ensuite, en 2021, j'ai continué je me suis remis dans ma routine de prendre que des douches froides tout le temps. Et ça me va bien et je suis content. Et je suis content d'avoir réussi à réinstaurer ça alors que j'avais glissé, et ce qui est normal et ce qui arrive, et que j'avais du mal à me remettre dedans. J'ai envie de dire celle-là, c'est celle récemment qui m'a le plus impacté pour ces choses. Mais c'est parce que tu me demandes de trouver une réponse à la question, sinon je te dirais
toutes plus ou moins,
on dira.
Ouais. Ok. Hyper cool. Et ouais, c'est quoi un peu la suite de tes projets, les prochaines vidéos là que tu as envie de tourner? Est-ce que justement il y a un nouveau cap que tu as envie de prendre? C'est comment est-ce qu'on se renouvelle en fait, tu vois, quand on a fait 100 vidéos, comment est-ce qu'on arrive à garder de la créativité? Comment est-ce qu'on trouve pour des nouvelles idées? Vers quoi tu te diriges toi?
Ouais, c'est une question difficile à laquelle c'est pas facile de répondre, je trouve, pour moi, parce que je peux pas me projeter sur 2 ans les vidéos que je vais faire, etc. Moi, les vidéos que je vais faire,
il y en a qui font ça,
il y en a qui font ça, genre Super Echo, il a tout un calendrier et tout. Ouais. Moi, j'ai toute une liste longue comme le bras d'idées de vidéos et de choses que je pourrais faire, mais genre je sais jamais ce que je vais faire après, laquelle je vais faire après 2 vidéos plus loin, quoi. Là, ouais, je vois à peu près les 2 prochaines que je vais faire. Mais je sais pas exactement ce que je vais faire plus loin. Pour essayer de répondre un peu à la question de comment je vois un petit peu la suite vis-à-vis de ça. En fait, aujourd'hui, je suis content d'avoir une position stable d'un point de vue de mon travail, d'un point de vue financier, etc. Donc, je ressens aucune pression vis-à-vis de ça et j'ai pas envie de m'en mettre. Et du coup, en fait, réellement, sincèrement, ce que j'ai envie le plus de faire aujourd'hui, c'est juste de faire exactement ce que j'ai envie de faire tous les jours, tout le temps. Genre, je me lève à l'heure que je veux, je me couche quand je veux. J'essaye de limiter. Pour moi, c'est important parce que j'aime avoir le contrôle sur mon temps. J'aime pas avoir un rendez-vous à 15h parce que il faut absolument que j'ai un call ou que j'ai un truc comme ça. Alors, je le fais parce qu'il faut et j'ai une entreprise, il faut qu'elle tourne aussi et il y a des calls à faire et tout. Mais je préfère limiter ça et limiter le pouvoir que les autres ont sur mon temps et ou sur ma condition. Et c'est un petit peu ça, en fait, que je me vois essayer de continuer à entretenir. Là, j'ai pas la vocation de faire 12 millions d'abonnés, de faire 14 millions de chiffres d'affaires ou quoi. Là, je suis content, en vrai. Je me dis, je suis bien, c'est stable. J'ai quand même un objectif vis-à-vis de ça qui est plus ou moins clair. Parce que, en fait, il m'aiderait, et ça faisait partie des réflexions aussi de l'autre fois quand je m'étais isolé, c'était oui, l'argent c'est pas super important pour moi, mais ça n'empêche que si j'avais énormément d'argent, eh ben ça me permettrait de vraiment me concentrer entre guillemets à 100% du temps sur ce que je vais faire. Donc je peux pas faire genre eh, l'argent je m'en fous, ça m'intéresse pas. Bah ça aide à faire tout le reste, en fait,
qu'on se le dise,
ça aide vraiment à faire tout le reste. Donc j'ai quand même une espèce d'ambition dans les années à venir de devenir, on dira, totalement libre financièrement, genre de prendre ma retraite entre guillemets, sans prendre ma retraite, mais de réellement me mettre dans une position où je m'en fous de l'argent entre guillemets pour un horizon extrêmement lointain, ce qui me permet vraiment de faire ce que je veux, parce que là encore j'ai une certaine pression, évidemment il faut que ça tourne tout ça, donc je peux pas juste faire purement ce que j'ai envie, mais ce que j'aimerais bien c'est typiquement me mettre dans une situation où j'ai plus à me soucier de ça et faire complètement autre chose. Typiquement, ça me plairait bien d'aller tester la composition de musique, de créer de la musique, etc. Ça me plairait bien de me dire, ok, je me laisse 2 ans, je m'enferme dans une cave, je parle plus à personne, je gagne plus d'argent, on dira, mais je peux me le permettre et je peux faire ça pendant 2 ans pour voir ce que ça donne. Comme ça, j'aurais essayé sur un malentendu, ça débouche. Si sur un malentendu, c'est pas si impossible que ça. Et j'aimerais bien me mettre dans cette position. Okay. Donc, je veux envie de continuer comme ça, graduellement, sans me mettre trop de pression, pour me mettre dans cette position à terme. Et puis à partir de là, on refera une bonne grosse réflexion personnelle et on verra sur quoi on part.
Bon bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Et aujourd'hui, ouais, sur ta partie un peu vraiment YouTube, création de contenu et création de programmes, t'as une équipe, tu t'es entouré de qui? T'as délégué des choses?
Ouais, pas énormément, mais bon, quand t'es dans la création de vidéos, souvent le monteur c'est une des choses les plus évidentes parce que ça prend énormément de temps de monter les vidéos.
C'est ce que t'as fait du coup?
Ouais, alors j'ai eu 2 monteurs. Il y en a eu un premier qui a travaillé pour moi 8 ou 10 mois et un deuxième qui a travaillé pour moi pendant 2 ans et duquel je viens de me séparer tout juste. Donc là, je n'ai plus de monteur et je vais essayer d'en retrouver un. Et dans l'intervalle, je refais mes vidéos. Mais j'avais un monteur là, le dernier, il travaillait à plein temps avec moi pour une bonne année et il pouvait me filmer, faire les vidéos, faire le montage, faire des photos, faire des retouches, du travail de branding et tout.
Il faisait tout.
Il faisait tout. Il était engagé pour pouvoir tout faire. Il savait tout faire. Et j'avais lui qui m'aidait beaucoup dans la création de contenu, et c'est la seule personne globalement. Et du point de vue de ma boutique, donc j'ai une boutique où je vends des équipements physiques, bah là il y a tout un travail de logistique, de relations fournisseurs, de choses comme ça. Celle-là, elle a été cofondée avec mon associé, dans laquelle on est que les deux, et on est restés les deux très longtemps. Et lui s'occupe de tout ce que moi je ne fais pas, ce qui est moi je fais le marketing, la vente, la conception des produits, lui fait plus ou moins tout le reste. Et maintenant on a un alternant qui, on a eu une stagiaire pendant un bon moment qui ensuite a été remplacée par un alternant qui est là pendant 2 ans avec nous, et qui lui nous aide pour la com, le marketing, le SAV, ce genre de choses. Mais petite équipe, mais j'ai pas justement, moi je me suis rendu compte dans tout ça que le rôle de manager je n'aime pas le rôle de manager, parce que j'ai l'impression que mon temps dépend, enfin que mon temps est contrôlé par ça. Je dois manager ces personnes attendent de moi que je leur dise quoi faire. Je me sens un peu trop contraint dans certaines choses, et c'est vrai que je préfère le rôle de technicien et d'entrepreneur que le rôle de manager, j'ai l'impression. Quand même.
Ah ben je peux comprendre. Ouais. c'est un vrai métier. Écoute, hyper intéressant le retourne et tout, ça va déjà faire 1h20 de podcast.
Ah oui, quand même.
On va faire dans les épisodes les plus longs, dans les records.
Je te laisse couper quand tu veux, tu me coupes pas, il faut que tu me coupes parce que moi je peux pas mal parler aussi, ouais.
Non, mais je suis hyper bavard, et en plus comme tu es dans un écosystème que j'ai envie de découvrir et que j'ai envie de creuser et tout, forcément ça me stimule. Mais peut-être pour les questions de la fin, je demande toujours, ouais, est-ce que il y a un livre ou un film, toi, que tu recommandes à tout le monde pour justement parce que ça a été un life changer entre guillemets pour toi.
Ouais, c'est
le. Tu lis pas mal, non?
Je lis beaucoup. Un des livres qui m'a justement provoqué un des plus gros déclics que j'ai lu juste avant de commencer ma chaîne YouTube, il s'appelle Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. En français, c'est du style. Quand passion rime avec obsession, un truc du genre, je crois. Il a été traduit en français, et ce livre, l'auteur le dit lui-même, est un livre créé par un obsédé pour les obsédés qui sont facilement obsédés par les choses. Et en gros, il te convainc que, en fait, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est qu'à la fin du livre, il te dit, OK, je te donne la permission d'être obsédé et de ne faire que ça, de ne faire que ce qui t'obsède. Et contrairement à ce que la société va penser, tes parents vont penser, tes potes vont penser, moi, qui suis-je pour, je sais pas, mais moi je te donne la permission de le faire, ça y est, t'as eu la permission. Et moi ça m'a fait un peu un déclic en mode, ok, ça veut dire que c'est possible et c'est permis, c'est autorisé d'être juste obsédé et de ne pas avoir envie de sortir tout le temps avec ses potes, ou ne pas avoir envie d'avoir 14 000 choses dans sa vie, mais d'en avoir quelques-unes, et par exemple une dans laquelle tu mets énormément de ton temps et de tes efforts, et ça m'a beaucoup marqué. Et c'était juste avant que je lance tout ça, et je me suis un peu nourri de ce message, je pense, ensuite.
Ok. Très cool. C'est quoi une bonne journée pour toi?
Putain, c'est tellement stylé comme sentiment quand je me couche et que c'est une bonne journée. c'est vraiment la journée où à la fin j'ai la preuve envers moi-même que j'ai avancé dans la bonne direction. Vraiment, s'il y a quelque chose que je sais, par exemple, j'ai sorti un podcast, j'ai publié une vidéo, j'ai avancé sur un script, j'ai avancé dans quoi que ce soit. Et ensuite, il y a vraiment un niveau d'échelle, parce que si j'ai juste répondu à un email, bah peut-être j'ai avancé, mais c'est pas énorme dans une journée. Donc évidemment, il faut quand même, ça reste assez subjectif, mais il faut qu'il y ait cette preuve-là.
Productivité,
vraiment.
Tu sens que t'avances vers ta mission.
Quoi. Ouais, vraiment. Et c'est tellement agréable. Okay. Bonne journée. Évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent entrer, tu vois. Aller faire un rendez-vous avec une fille et tout ça, c'est pas ça qui me fait avancer peut-être vers mes objectifs professionnels, mais ça reste quelque chose d'extrêmement agréable. Tu vois, quand je vais à un rendez-vous avec une fille, bah limite, si ça s'est bien passé, je rentre chez moi, je suis sur un petit nuage, je suis là, putain, c'était trop bien et tout, et je m'en fous si j'ai pas bien travaillé, tu vois. Il y a d'autres façons d'avoir des bonnes journées, mais c'est vrai que en moyenne, c'est ça, c'est plutôt orienté travail et productivité, on dira.
Ouais. Trop cool. Si tu pouvais te faire un voyage un peu dans le passé et te faire dire un petit mot au jeune Eric de 18 ans qui va pousser pour la première fois la porte de la salle de muscu, et qu'à ce moment-là tu pouvais lui dire un truc, qu'est-ce que tu lui dirais?
Qu'est-ce que je lui dirais? Je pense pas que je serais du genre à vouloir lui épargner les erreurs et les apprentissages longs et douloureux qui l'attendent. Je pense que j'aurais envie qu'il vive ça. Donc, en fait, ce que j'aurais envie de faire, c'est plutôt juste de le rassurer sur le chemin qu'il prend, en mode, bah vas-y, continue, c'est bon, c'est sûr, en fait, juste, t'es sur la bonne voie, c'est très bien. Même si t'es pas sûr et tout, continue de faire comme t'as l'impression qu'il faut le faire, sans lui dire, tu vas prendre des murs, mec, tu vas voir, ça va être dur. Non, ça, il a pas besoin de le savoir, ça, il va l'apprendre tout seul. Mais juste, lui dis, bah, continue, en fait, juste, aie foi en le processus, ça va bien se passer, je dirais, tout va bien se passer. S'il peut me croire, et qu'il me croit, tout ce que je lui dirais, il me le croit, je lui dirais juste, ça va bien se passer, continue. Et puis aujourd'hui, je suis content, donc c'est pour ça que j'aurais pas envie de le faire changer de direction, j'imagine. Mais il avait besoin, je pense qu'il avait besoin, clairement, à 18 ans, il avait pas beaucoup confiance en grand chose, ouais.
Une autre question que j'aime bien poser, c'est si demain soir tu pouvais dîner avec la personne de ton choix sur Terre, vraiment n'importe qui, pour passer 2 heures et dîner, qu'est-ce que tu choisirais?
C'est vraiment une question difficile, je trouve. n'importe qui. Oh là là, je sais pas, peut-être Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu vois qui c'est.
Ouais, bien sûr.
C'est un entrepreneur à succès. Je te dis ça parce que j'ai l'impression que lui, il pourrait, ça pourrait être extrêmement intéressant d'un point de vue entrepreneurial et tout ça, mais aussi d'un point de vue humain. Il véhicule des valeurs et des messages qui me plaisent beaucoup sur la patience, sur la conscience de soi, la self-awareness et de plutôt être à la recherche du bonheur que d'autres validations extérieures et tout ça. Et je me dis qu'il pourrait y avoir une discussion sympa. Donc, sans avoir plus de temps pour y réfléchir, je dirais lui, je pense. Ouais,
bah Gary V, il est impressionnant. T'es sûr de passer un bon moment, je pense.
Oui, je pense.
Ok. L'avant-dernière question, c'est de savoir si t'avais une boule de cristal, là, et que tu pouvais apprendre un truc sur toi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu voudrais savoir?
Apprendre quelque chose d'où j'en serais dans 10 ans?
Ouais, tu peux avoir une info sur toi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu chercherais à savoir?
Une info. C'est pas très intéressant comme réponse. J'aurais envie de dire, est-ce que je suis toujours très content de quand je me lève tous les matins et de comment je m'endors?
C'est pas mal déjà.
C'est pas mal. Ouais. J'espère, en tout cas, ce que j'aurais envie d'espérer, c'est que dans 10 ans, je serai toujours heureux, mais que j'aurai aussi d'autres objectifs du style fonder une famille et qui seront lancés. Parce qu'à 40 ans, j'espère avoir commencé à fonder une famille. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, voilà, un peu de tout ça, ce serait pas mal.
Ok.
J'aimerais bien savoir ça, juste pour être rassuré.
Et la toute dernière question, c'est un passage de micro. C'est de savoir qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer justement pour passer 1h30 ensemble et parler sport. Pas forcément dans le YouTube, tu vois. Comme tu l'as vu, j'ai fait beaucoup, essentiellement des athlètes de haut niveau. Mm-hmm. Mais tiens, ouais, qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour une bonne interview? Toi qui as aussi interviewé des gens sympas. Mm-hmm. Donc tu dois sûrement avoir de bonnes recommandations.
Ouais, alors bon, moi, tu as vu, je connais surtout les gens dans mon milieu. Ouais, les youtubeurs, les créateurs de contenu. Je pourrais te recommander Mathias, qui est un très bon ami à moi, qui habite pas très loin de chez moi, qui fait des vidéos, mais qui est aussi joueur de...
Il est suisse aussi?
Il est suisse et il est joueur de volleyball semi-pro depuis des années. Et il arrive à conjuguer, il a réussi à conjuguer pendant longtemps ses études, sa passion de YouTube et ses 2 entraînements par jour de volleyball, quasiment tous les jours et les matchs et tout ça. Et là, il a récemment terminé ses études pour se mettre sur YouTube. Mais lui, c'est un taré aussi de travail et d'ambition. Et moi, ça me plaît bien de parler avec lui. Et il a cet aspect sportif pro, semi-pro en tout cas, qui pourrait aussi t'intéresser. Et il me semblait avoir entendu, j'ai déjà écouté certains de tes épisodes, et il me semblait avoir entendu que tu posais cette question à la fin. Et je voulais savoir, parce que je me suis dit, quand j'ai entendu ça, j'ai eu une curiosité que je voulais te demander, et autant te la demander maintenant. Ouais. Est-ce que tu as lu Influence et Manipulation de Robert Cialdini?
Ouais, bien sûr.
Est-ce que tu es au courant de pourquoi tu poses cette question également? Est-ce que tu sais le pouvoir de la... Est-ce que tu connais le pouvoir d'influence de la recommandation?
Il y a plusieurs... Ouais, exactement.
Parce qu'il est très puissant. Il est très puissant.
Non, mais j'ai lu Robert Cialdini. Après, je le fais avec beaucoup d'honnêteté, tu vois.
J'en suis sûr.
Pour déjà parce que je crois en l'aventure humaine, tu vois. Et c'est toujours plus sympa, tu vois. Là, t'as vu Guillaume. Guillaume, il m'a dit, mais tiens, mais tu connais pas Eric? Je fais, mais si, putain, en plus, je connais son contenu et tout. Et le fait que, que vous connaissiez, tu vois, ça.
Bien sûr.
Tu vois, je trouve, il y a un côté cool où, peut-être que demain, on ira se boire un café tous les trois, ou on ira déjeuner. D'ailleurs, je vois Guillaume demain. Ouais. Donc, et tu vois, c'est un peu cette aventure humaine que je trouve sympa, déjà cool. Le côté un peu réseau. Et effectivement, il y a peut-être un peu de pression sociale et de pression d'engagement.
Non, c'est... Moi, j'ai trouvé ça très intelligent. Je me suis dit, évidemment que c'est sincère et que c'est pas du tout intéressé. Ouais. Mais j'ai trouvé ça très très intéressant. Je me suis dit, je pourrais presque demander aussi. Je me suis presque demandé si je te volerais pas ta petite question de fin, parce que c'est très très bien. Franchement, bravo.
Bon, bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Écoute, moi je me suis régalé. J'espère que ça plaira à mon audience. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais déjà c'était cool de passer un petit moment avec toi et de découvrir différemment ton parcours. Alors, je le connaissais déjà, alors. J'avais la lourde tâche d'essayer de le faire découvrir de manière assez agréable aux auditeurs, et je pense que ça leur plaira. Donc tiens, faites-nous des retours, dites-nous à Eric et à moi si vous avez bien aimé l'épisode, envoyez-nous un petit message sur Insta. En tout cas, moi je réponds toujours, Eric, je peux vous dire qu'il répond aussi très rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu à tous les extraterriens. Merci à toi Eric, franchement, de m'avoir accordé ce temps, c'était très cool. C'était spontané, on s'est contacté quoi il y a 10 jours, ça fait hyper vite. Donc hyper cool, et puis si je passe à Lausanne, je te passerai un petit coup de fil avec grand plaisir.
Merci à toi Bart, c'était vraiment très très cool. J'ai regardé ton contenu quand tu m'as contacté, j'ai vu qu'il y avait un mec intéressant qui faisait ça. Moi j'adore avoir des discussions intéressantes avec des gens intéressants, et tout de suite je me suis dit ça devrait être le cas, et j'ai pas été déçu, et c'était vraiment très très cool. Donc merci beaucoup pour l'opportunité et l'invitation sur ton podcast.
Avec plaisir, à plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.